Vous êtes sur RTL.
Merci Jérôme.
Je vois que ça tourne toujours autour des mêmes sujets avec vous. Bizarre. Non,
ne me dénoncez pas, faites attention. Bonne journée à vous.
Bonne
Jérôme
journée à toute l'équipe des petits matins.
C'est une première. À 8h20, nous reviendrons sur la crise de foi des Français. C'est à prendre au premier degré. Pour la première fois, ils sont majoritaires dans la dernière enquête IFOP à affirmer qu'ils ne croient pas ou plus en Dieu. Nous y reviendrons largement dans notre journal de 8h avec notre brigade RTL et Sébastien Rouxel. Et nous donnerons la parole au philosophe, ancien directeur du Monde des Religions, Frédéric Lenoir. Il sera à 8h20. Sachez néanmoins que la spiritualité au sens large reste une préoccupation et que, par exemple, on croit encore, très clairement, chez les 18-34 ans. Bref, beaucoup de paradoxes que nous allons commenter avec curiosité. L'invité politique d'Alba Ventura est ce matin Christiane Taubira, notre ancienne garde des Sceaux, publie un livre très personnel, un recueil de nouvelles intitulé « Morceaux de vie » comme « Carreaux cassés » chez Robert Laffont. Alba lui demandera notamment ce qu'elle pense de ces livres que l'on brûle au Canada. Et nous retrouverons à 8h35 notre correspondant sur place. Il a rencontré l'une de ces femmes qui jette ses livres au feu. Elle parle de purification. Nous sommes le jeudi 23 septembre 2021. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une ce matin, la fin du masque à l'école primaire.
Les profs vont pouvoir découvrir enfin le visage de leurs élèves. Ce sera à partir du 4 octobre. Certains scientifiques trouvent Emmanuel Macron, ceci dit, un peu trop pressé. Xavier Bertrand, toujours en jaune à droite dans la course à la présidentielle, mais Valérie Pécresse est dans la roue. Bref, les Républicains ne savent toujours pas comment ils vont choisir. Dans ce journal également, un curé, star des réseaux sociaux pour tenter de moderniser l'image d'une église qui compte de moins en moins de croyants, la souffrance d'une mère, celle de Cédric Jubilard, qui doute de l'innocence de son fils, et de nouveaux incidents hier en marge de la 7e journée de Ligue 1, des supporters marseillais sur la pelouse d'Angers et un car bordelais attaqué à Montpellier.
La politique, Olivier Bost.
Éric Zemmour fait la une de Paris Match, piégé ou intronisé, c'est la question.
Vos explications dès la fin du journal.
RTL Matin.
Des entreprises, on s'en souvient, avaient fini par mettre au point des masques avec sourire imprimé sur le tissu pour rassurer un petit peu nos écoliers. Espérons-le, cette invention sera bientôt arrangée au musée des bizarreries de la crise sanitaire entre les écouvillons et les attestations de sortie. En tout cas, à partir du 4 octobre, dans les départements où l'épidémie est en dessous des seuils d'alerte, le masque ne sera plus obligatoire du CP au CM2. Une quarantaine de départements sont déjà concernés, parmi lesquels l'Indre-et-Loire. Alors, comment la nouvelle a été accueillie par les petits et par leurs parents à Ligueuil, Christian Panvert?
Les avis sont partagés. Nolan a 10 ans. Il se dit rassuré par le masque qu'il porte depuis un an. Alors l'enlever lui fait un peu peur.
Dans la cour, ce sera peut-être bien, mais coller aux copains dans la classe, moyen.
Céline, sa maman, est du même avis.
Il va commencer à faire moins beau, plus froid, ils vont moins pouvoir aérer. Ça peut compliquer les choses.
L'obligation du port du masque à l'école primaire bientôt levée, c'est la bonne nouvelle du jour pour Mélanie.
J'ai un petit qui entre en primaire et qui porte des lunettes. Et du coup, l'hiver, c'est compliqué d'avoir le masque en permanence dans la classe. C'est difficile.
Et donc là, 4 octobre, c'est fini. Ça, c'est la bonne nouvelle.
Très bonne, effectivement, et je pense qu'il sera ravi.
Sandrine acquiesce.
Pour mes jeunes enfants, je suis plutôt contente. Je trouve ça assez violent pour ces petits loulous de le porter plusieurs heures d'affilée. Ouais.
Un des deux petits loulous se prénomme Tom, 10 ans. Il est très heureux. Le masque, il en a assez.
On peut pas voir les expressions. Les profs, ils t'entendent pas bien. Tes amis, ils t'entendent pas bien. C'est plutôt une bonne nouvelle, du coup.
Les syndicats d'enseignants n'ont pas souhaité réagir. La plupart auraient aimé que rien ne change avant la Toussaint.
Reportage de Christian Panvert. Alors l'épidémie recule maintenant depuis des semaines. Pour autant, certains scientifiques trouvent cette décision prématurée. C'est le cas de Benjamin Davidot, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches.
C'est quand même une décision assez hâtive parce que la rentrée a à peine commencé et qu'on arrive sur la saison de l'automne avec, comme vous le savez, à partir du 15 octobre, moins de tests, car les tests vont devenir payants pour un certain nombre. Donc j'ai du mal à comprendre comment, lorsqu'on va arriver en hiver et qu'il va faire plus froid, qu'on va être à l'intérieur, notamment les enfants, avec souvent des pièces mal ventilées, mal aérées, on considère que le masque est optionnel sur une population d'enfants par définition non vaccinés. Et donc je trouve qu'il faut rester tout de même vigilant parce que largement les enfants sont asymptomatiques.
L'infectiologue Benjamin Davidot répondait à Agathe Landais. À l'issue du Conseil de défense hier, le gouvernement, en revanche, n'envisage pas d'assouplissement du pass sanitaire. Et puis en Allemagne, sachez que pour pousser à la vaccination, les salaires des non-vaccinés ne seront plus pris en charge quand ils doivent, par exemple, se placer en quarantaine. 63% de la population a reçu deux doses outre-Rhin, c'est 71%, on le rappelle, en France. Et puis un dernier mot pour vous dire que les États-Unis valident à leur tour la troisième dose de vaccin pour les plus de 65 ans à risque.
Il est 7h04, à 199 jours de la présidentielle, les Républicains ne sont toujours pas en ordre de marche.
Hein. Toujours pas de décision sur une éventuelle primaire ouverte, toujours pas non plus de candidat naturel qui s'impose. Et le sondage commandé par le parti ne permet pas vraiment de clarifier la situation, même si Xavier Bertrand est toujours en tête, Marie Mollet.
Oui, au concours de beauté, Xavier Bertrand est arrivé premier. On ne peut pas dire qu'il survole le sondage, mais il se détache de ses concurrents à droite, notamment pour la question clé, qui serait capable d'accéder au second tour. Alors hier, ses soutiens n'ont pas boudé leur plaisir, comme le député Pierre-Henri Dumont.
Manifestement, les sondages sont très clairs. Xavier Bertrand est celui qui est en tête de toutes les questions et qui est le seul aujourd'hui capable de remporter cette élection présidentielle.
Sauf que Xavier Bertrand n'a pas non plus fait un triomphe. Dans ce sondage, comme dans les autres, il n'écrase pas le match. Michel Barnier fait une percée, Valérie Pécresse est en embuscade. Ses soutiens à elle le répètent à l'envi. La compétition ne fait que commencer, le député Éric Pogé.
L'enseignement majeur de cette enquête, c'est qu'il n'y a pas de candidat naturel à droite. Donc cette fois, c'est scientifiquement prouvé. Et donc, tout reste à faire.
Tout reste à faire. Ce sondage est même un non-événement, à en croire le sénateur Pierre Charon.
On n'a pas fini. Il y aura un deuxième sondage, un troisième sondage et un autre congrès.
D'ici là, il y a un vote samedi des militants pour savoir si oui ou non la primaire est enterrée.
Merci Marie Mollet. Une décision en revanche a été entérinée. C'est une information RTL. Le parti adopte une sorte de clause Fillon et pourra débrancher un candidat s'il se retrouve empêtré, par exemple, dans une affaire judiciaire. Référence évidente au Penelope Gate et au naufrage de la campagne 2017. Éric Zemmour, lui, va porter plainte contre Paris Match. Le magazine publie en une des photos a priori volées du polémiste d'extrême droite en train de se baigner avec une collaboratrice, avec une certaine proximité. « Je ne me laisserai pas intimider », a-t-il déclaré sur Twitter.
Et on y revient, je vous le rappelle, avec Olivier Bost, dès la fin du journal. Une pause, dans un instant, notre dossier RTL. Plus de la moitié des Français ne croient pas en Dieu. Vous verrez comment un prêtre essaie d'inverser la tendance. Il est devenu une star sur les réseaux sociaux.
RTL Matin.
Il est 7h07, la suite du journal d'Olivier Bois. Et un chiffre sur lequel on s'arrête ce matin pour la première fois. Moins de 50% des Français déclarent croire en Dieu.
C'était 56% il y a 10 ans. La religion, d'une manière générale d'ailleurs, est jugée en retard sur les débats de société. Et bien justement, pour tenter de dépoussiérer cette image, le père Vincent Cardot à Saint-Dizier en Haute-Marne a investi les réseaux sociaux et il compte 70 000 abonnés sur son compte TikTok, Sébastien Rouxel.
Et lorsque j'aperçois Vincent Cardot derrière l'autel, difficile d'imaginer que ce prêtre de 32 ans, vêtu d'une aube, est une star des réseaux sociaux.
Cette présence sur TikTok, c'est comme une porte ouverte sur l'église. Les jeunes sont sur les réseaux sociaux et donc c'est là qu'on peut aller pour s'adresser à eux.
Et pour les attirer, ils répondent dans de courtes vidéos à toutes sortes de questions. Qu'est-ce qu'une prière? A-t-on la preuve que Dieu existe? Toujours avec ce ton décalé.
Bien sûr qu'il y a des jours où c'est la grosse flemme de prier.
Dans d'autres, il va même jusqu'à danser devant son église.
Il y a des jeunes qui ont commencé à faire un premier pas vers la religion grâce à ces vidéos.
Je pense à un jeune qui était en grand questionnement sur la vie, sur la foi, et qui, à travers l'échange qu'on a pu avoir, a fait la démarche de pousser la porte d'une église. Ça me réjouit profondément.
Et ça tombe bien, puisque les paroissiens comme Marie-Christine en ont un peu marre d'être entre personnes âgées.
J'espère que ici, autour de nous, à Saint-Dizier, voilà, il y a beaucoup de jeunes qui désireront faire cette expérience de rencontrer Dieu.
Dans son sillage, d'autres prêtres se sont lancés sur les réseaux sociaux avec ce même objectif, dépoussiérer l'image de l'Église.
L'Église 2.0, reportage de Sébastien Rouxel.
Et nous y reviendrons à 8h20 avec le philosophe et spécialiste des religions, Frédéric Lenoir. La mère de Cédric Jubilard doute de l'innocence de son fils.
Oui, il est toujours mis en examen et incarcéré, même si lui affirme n'avoir pas tué sa femme Delphine, disparue en décembre. Mais sa mère, récemment, a appelé une émission de voyance d'une radio locale toulousaine à qui elle a dit être persuadée donc, de la culpabilité de son fils, notamment au vu des éléments que lui ont montrés les gendarmes. Elle est depuis revenue sur ses propos, selon son avocate, maître Jessica Sheffaroudi.
Avec toute la pression qu'elle subit, c'est quelqu'un qui ne sait juste plus du tout où elle en est. C'est une grand-mère inquiète. Pour ses petits-enfants, eh bien oui, un jour, on peut se dire qu'on pense que son fils est coupable et le lendemain, dans l'heure qui suit, finalement, se poser des questions avec le recul nécessaire. Et en tout état de cause, en l'absence d'éléments concrets, elle n'est convaincue et elle n'est sûre de rien à l'heure actuelle.
Des propos recueillis par Patrick Tégéraud. En bref, Emmanuel Macron et Joe Biden se sont enfin parlé avec la volonté affichée d'un retour à la normale. Le président américain ne s'excuse pas, mais admet qu'il aurait fallu avoir une meilleure communication. L'ambassadeur français, en tout cas, repart à Washington. Et puis, dans ce dossier des sous-marins, le groupe français Naval Group a fait les comptes et va remettre aux Australiens, dans quelques semaines, une proposition chiffrée d'indemnisation au vu des investissements déjà engagés depuis 5 ans.
Il est 7h10, la 7e journée de Ligue a été à nouveau marquée par des incidents graves.
Oui, un bus de supporters bordelais a été attaqué à Montpellier après le match nul 3 partout. Il y a eu 16 blessés et il y a eu également, Philippe Audouin, des incidents à la fin du match entre Angers et Marseille.
Le match venait de se terminer, les deux équipes étaient rentrées au vestiaire, mais parmi les 500 supporters marseillais, une cinquantaine a voulu en découdre avec ceux d'Angers. Les échauffourées n'ont heureusement fait aucun blessé et ont pu être maîtrisées assez rapidement par les services de sécurité. Pierre Gatté, le référent supporter d'Angers, était dans la tribune où se sont produits les incidents.
Les supporters de Marseille, ils sont rentrés sur la pelouse à un moment donné. Oui, il y a des vidéos qui le montrent. Il peut y avoir de l'excitation, il peut y avoir de la tension. Après, il y a des règles qui doivent être dépassées et à certains endroits, elles ont été dépassées.
Sans dédouaner les supporters de son club, Jacques Cardoz, le responsable de la communication de l'OM, estime que la provocation est partie des supporters d'Angers.
Des doigts d'honneur et des pétards qui ont été envoyés du côté angevin vers les Marseillais. Les Marseillais ont répondu, donc c'est stupide des deux côtés. Personne n'a à répondre lorsqu'on est provoqué et personne n'a à provoquer.
Ces nouveaux incidents autour d'un match de Ligue 1 font tâche et pourraient entraîner à terme une interdiction de déplacement pour les supporters visiteurs.
Merci beaucoup Philippe Audouin. Marseille et Angers qui ont donc fait match nul 0 partout. Paris s'est imposé de son côté sur le fil 2-1 à Metz. Deux buts d'Hakimi, dont celui de la victoire marqué à la 95e minute. Et au classement, le PSG est toujours leader devant Marseille et Angers.
Les courses, elles ont lieu aujourd'hui à Vincennes.
Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 7, le 6, le 12, le 9, le 14, le 11 et le 8. La dernière minute étant le 9.
C'était le journal d'Olivier Bois. Il est 7h12, la politique avec vous Olivier Bost, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Éric Zemmour, une de Paris Match, est-ce un fait politique Olivier?
Alors un fait politique peut-être pas, un fait de campagne, oui, pour un candidat non déclaré, je vous le rappelle. Oui. Déjà pour commencer, c'est une première, Paris Match n'a jamais fait sa une avec Jean-Marie Le Pen ou avec Marine Le Pen, jamais. C'est la première fois qu'un homme politique français situé à l'extrême droite sur l'échiquier fait la couverture de cet hebdomadaire. Les lignes éditoriales aussi bougent.
Mais dans une campagne, c'est un hebdomadaire qui compte.
Oui, alors la une de match, c'est un passage obligé. La course à l'Élysée, ça passe par ces photos où le candidat se dévoile avec sa compagne ou son compagnon. 500 000 d'exemplaires sont vendus chaque semaine et c'est 4 fois plus de lecteurs. L'effet salon de coiffure. L'impact est donc important, essentiel même. Brigitte et Emmanuel Macron s'y étaient parfaitement prêtés en 2016. Marine Le Pen, toujours très réticente à exposer sa vie privée, avait concédé un reportage photo en 2017, sans faire la une donc. Éric Zemmour fait une entrée dans un club restreint d'une manière assez particulière puisqu'il le fait en maillot de bain.
Bah oui, ce sont des photos probablement, ou en tout cas on veut nous le faire croire, volées, où il enlace sa principale collaboratrice.
Oui, alors que sa proche conseillère soit sa très proche conseillère ou très très proche conseillère est sans intérêt. Ce n'est pas tant la moralité qu'interroge les électeurs que la sincérité. Mmh. Un candidat peut bien faire ce qu'il veut tant que c'est raccord avec ce qu'il raconte et défend. De toute façon, dans le cas d'Éric Zemmour, la plupart des critiques ou des accusations donnent de la force à son hold-up médiatique.
Vous voulez dire qu'il en joue clairement, c'est ça ?
Oui, et nous le vérifierons sans doute encore dans son débat avec Jean-Luc Mélenchon ce soir. Éric Zemmour aime et se nourrit des provocations jusqu'à un certain point. Son avocat a fait savoir qu'il portait plainte contre Paris Match hier soir. Sur sa vie privée, le polémiste prenait les devants ces derniers jours. « On va me sortir toutes les filles que j'aurais violées », répète-t-il à tout le monde. Le complot n'est jamais loin, les partisans d'Éric Zemmour ne sont plus à convaincre. Cette une de Paris Match est, qu'on le veuille ou non, un fait de campagne. Une campagne où nous ne sommes qu'au début, mais alors vraiment qu'au début de nos surprises.
Merci beaucoup Olivier Bost. Notre rendez-vous à 7h40 avec Alba Ventura et son invité. Ce matin, notre ancienne garde des Sceaux, Christiane Taubira, elle publie un recueil de nouvelles chez Robert Laffont intitulé « Ses morceaux de vie comme carreaux cassés ».
Yves Calvi, RTL Matin.
Et nous allons nous intéresser maintenant à votre argent grâce à notre brigade RTL. Le prochain budget de l'État vient d'être présenté. Bonjour Anaïs Bouissou.
Bonjour.
Arrêtons-nous sur quatre mesures tout à fait concrètes. Premier changement, la taxe d'habitation. Si vous faites partie des 20% de Français qui payent toujours une taxe d'habitation, son montant va baisser.
Oui, si vous vivez seul en touchant plus de 2500 euros par mois ou si votre couple gagne plus de 4200 euros par mois, la taxe d'habitation que vous payez encore va baisser. Je vous donne un exemple. Si votre taxe d'habitation était de 600 euros en 2020, elle ne sera plus que de 200 euros en 2022 et ce sera la dernière année avant sa suppression totale.
Bah dites-moi. Deuxième mesure, c'est un terme barbare, la contemporanéité des crédits d'impôt pour les employés à domicile. Dit comme ça, on n'y comprend pas grand-chose. De quoi parle-t-on ?
C'est beaucoup plus simple que ça n'en a l'air. En gros, vous employez quelqu'un chez vous pour faire le ménage oui. ou une aide à domicile. Mmh. Vous payez votre employé et ensuite vous obtenez un crédit d'impôt. Aujourd'hui, vous devez quand même avancer l'argent. Eh bien, à partir du 1er janvier prochain, ce sera fini. Plus rien n'a avancé. Au lieu de payer 1000 euros et d'être remboursé plus tard de la moitié en crédit d'impôt, il ne vous restera plus que 500 euros à débourser.
Et si vous faites des travaux, bonne nouvelle, le dispositif MaPrimeRénov est reconduit, lui.
Oui,
hein.
Jusqu'à 10 000 euros prise en charge pour une chaudière à granulés, par exemple. Dès que vous améliorer la performance énergétique de votre logement, en fait, vous êtes théoriquement éligible.
Et enfin, dans un tout autre domaine, la contraception gratuite jusqu'à 25 ans.
Oui, contraception 100% prise en charge ainsi qu'une consultation par an, même au-delà donc de 18 ans désormais. Ça concerne 3 millions de jeunes femmes. C'est un effort de société visible sur le budget. À titre d'exemple, le budget dédié à l'égalité femmes-hommes augmentera de 22% en 2022.
Merci beaucoup Anaïs Bouissou pour ces explications extrêmement claires. Dans un instant, le gaz hilarant est mis en cause dans un accident grave sur les Champs-Élysées mardi soir. Quatre blessés, dont dans un état grave pour certains d'entre eux. On va évoquer les ravages de ce gaz avec une pharmacienne.
RTL événement.
Il est 7h18. Bonjour Amélie Davelui.
Bonjour Monsieur Calvi.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes pharmacienne, responsable du centre d'addictovigilance de Bordeaux et de l'Outre-mer. On évoque avec vous ce matin ce qu'on appelle le gaz hilarant, présent dans les fameuses recharges de siphons, notamment pour les bombes de chantilly, et qui connaît un succès important chez les plus jeunes, et semble-t-il pas seulement chez les plus jeunes. Peut-être pouvez-vous nous expliquer les effets du protoxyde d'azote, puisque c'est son nom sur l'organisme, et ce qu'il procure chez ceux qui décident de l'utiliser de façon détournée.
Alors, comme son nom l'indique, l'inhalation de ce gaz peut entraîner une désinhibition, des altérations visuelles et auditives, une euphorie comparable à l'ivresse et souvent accompagnée de rires incontrôlables. Ce sont des effets qui sont brefs, qui durent 2 à 3 minutes, qui peuvent donc nécessiter la reprise d'un ballon contenant ce gaz pour re-obtenir ces effets.
C'est une forme de shoot qui dure 2-3 minutes, c'est ça ?
C'est ça.
Ce gaz est mis en cause dans un accident sur les Champs-Élysées, accident de voiture un mardi soir. Une collision avec 4 blessés, dont 3 dans un état grave. La conductrice aurait perdu le contrôle. Ça vous semble possible ? C'est-à-dire qu'un conducteur qui utiliserait ce gaz peut se retrouver en situation où il n'arrive pas à maîtriser son véhicule ?
Ben effectivement, comme je vous le disais, si on commence à avoir des rires incontrôlés, une euphorie, cette désinhibition, on peut tout à fait avoir un risque de perte de contrôle de son véhicule.
Donc ce gaz peut provoquer troubles neurologiques et corporels ?
Alors, les troubles neurologiques, on en entend beaucoup parler actuellement au niveau des centres d'addictovigilance, mais aussi oui. chez beaucoup de neurologues. Effectivement, chez des consommateurs chroniques qui consomment depuis longtemps et ou qui consomment de très fortes quantités de protoxyde d'azote, on peut observer des atteintes neurologiques à type d'atteinte de la moelle et des nerfs qui peuvent entraîner un handicap parfois avec des séquelles si ces effets ne sont pas pris rapidement en charge.
Quel type de séquelles ?
Des difficultés à marcher et des fourmillements qui peuvent persister.
Mais donc des difficultés à marcher, ce que vous décrivez, c'est extrêmement grave. Ça, ce sont des effets à long terme qui peuvent vraiment remettre en cause la vie d'un homme ou d'une femme, on est bien d'accord.
Tout à fait, la vie normale. Tout à fait, il y a des effets. Alors, il y a des effets qui peuvent être mortels à court terme, et puis il y a des effets potentiellement graves à long terme, comme ces atteintes neurologiques. Mais il peut y avoir également des troubles psychiatriques avec des troubles de l'humeur, et puis surtout des risques d'addiction qui ont les conséquences que l'on connaît avec un repli sur soi et une déscolarisation pour les plus jeunes.
Une loi pour interdire aux mineurs l'usage récréatif du protoxyde d'azote a été votée, et pourtant ces gaz hilarants demeurent un problème de santé publique. Que peut-on faire concrètement ?
Concrètement, je pense qu'il faut en parler.
ce que les réseaux d'addictovigilance a fait dès 2018, parler des risques. Si on consomme, se poser la question sur sa propre consommation, est-ce que je consomme beaucoup, est-ce que je consomme seul, en groupe, à quelle fréquence? Et puis aussi informer les professionnels de santé que ces risques existent et que devant des troubles inexpliqués comme ceux que je viens de citer chez des jeunes, des ados ou des jeunes adultes, ils puissent poser la question d'une éventuelle consommation de protoxyde d'azote. Ce qui peut aussi, pour le jeune, se prendre conscience de sa consommation et des risques que ça peut entraîner.
Une toute dernière question. Vous voyez des consultations de ce type en hausse au sein de votre centre?
Alors, moi non, parce que je n'ai pas de consultation, mais c'est vrai qu'actuellement, au CHU de Bordeaux, mais également dans d'autres CHU de France, on voit une augmentation des patients qui se présentent pour ces troubles neurologiques. Et heureusement, les neurologues ont conscience de la consommation de protoxyde d'azote et essayent d'informer au mieux les patients et de les traiter également au mieux.
Merci beaucoup Amélie Davelluy. Je rappelle que vous êtes pharmacienne et donc responsable du centre d'addictovigilance de Bordeaux et de l'Outre-mer.
RTL Matin, Yves Calvi.
Eh ben c'est l'heure de notre pépite musicale avec Steven Bellery. Bonjour Steven.
Bonjour à tous.
Il y a un an, jour pour jour, Juliette Gréco nous quittait.
Oui, l'icône avait 93 ans, Juliette Gréco, qui fut emprisonnée à Fresnes pendant la guerre, dont la mère et la sœur furent déportées à Ravensbrück, savait ô combien que les mots ont du pouvoir. En 1981, Juliette Gréco est conviée à se produire au Chili, le pays devenu une dictature et dirigé depuis 8 ans par le général Pinochet. Dans la salle, dignitaires et militaires, la muse de Saint-Germain-des-Prés est ovationnée à son entrée sur scène. Et ce soir-là, Juliette Gréco n'interpréta que des textes sur la liberté ou antimilitaristes comme les cimetières militaires. À la fin du tour de chant, un silence de mort, se souviendra l'artiste. On nous a confisqué nos passeports, des policiers nous ont conduits à l'hôtel, puis le lendemain on a été expulsés. Mais les gens avaient entendu, mon travail c'est ça, être utile, a souvent raconté Juliette Gréco. Cette péripétie inspira à Étienne Rodagil l'un des textes les plus percutants de la chanson française, Utile, mise en musique et interprétée en 1992 par Julien Clerc. En 2006, Juliette Gréco l'avait enregistrée et c'est notre pépite du jour.
À quoi sert une chanson si elle est désarmée? Me disaient des Chiliens, bras ouverts, poings serrés. Comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer. Je veux être utile. Comme la lune fidèle à n'importe quel quartier, je veux être utile à ceux qui m'ont aimé, à ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimaient. Je veux être utile à vivre et à chanter.
Quand on veut défendre une cause, il faut aller sur le terrain, disait Juliette Gréco. Sa version d'Utile est dans son album de reprise Le Temps d'une chanson ou dans sa dernière compilation Liberté, Égalité, Féminité parue en mars. Une place Juliette Gréco sera inaugurée cet après-midi en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés à Paris.
À ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimeront.
Steven Bellery, on se retrouve demain matin avec grand plaisir. Et pour encore plus de musique, rendez-vous dès 21h ce soir avec Éric Jean-Jean dans Bonus Track sur RTL. Au programme ce soir notamment Jean-Jacques Goldman. J'en profite pour annoncer notre journée spéciale sur RTL. Tous les auditeurs qui passent à l'antenne aujourd'hui gagneront le nouveau livre d'Éric Jean-Jean intitulé Goldman, une vie en chanson. Il sort aujourd'hui aux éditions Hugo Doc et vous y trouverez tout ce qui vous intéresse si vous aimez Jean-Jacques Goldman. Goldman, une vie en chanson. Jean-Jacques Goldman, que vous retrouverez avec Éric Jean-Jean ce soir dès 21h. Nous, on va retrouver nos grosses têtes et Louis Baudin. Bonjour Louis.
Bonjour Yves.
Dans un tout petit instant, soyez patients. À tout de suite sur RTL.
RTL Matin.
Rendez-vous avec le rire et la bonne humeur de nos grosses têtes dès 15h30. Et on va tout de suite retrouver Jean-Philippe Janssen qui, comme d'habitude, nous fait rire avec ses histoires d'avion.
Un oiseau si petit soit-il, il rentre dans le réacteur, ça peut bousiller l'avion. On est obligé de faire demi-tour.
Un avion qui rentre dans un oiseau, ça fait mal aussi.
Ah, les gens ils croient qu'on fait ça pour les emmerder quand on fait demi-tour au parking parce qu'il y a un oiseau. Mais non. Il m'a dit, moi j'ai un contrat à signer, je vais perdre des millions d'euros pour ma société. J'ai dit, on n'en peut rien, monsieur, on a un oiseau qui est rentré dans le réacteur.
Il m'a dit,
j'exige de voir l'oiseau. J'ai ramené un poulet grillé, voilà.
S'il y avait un chasseur sur chaque réacteur,
oui.
Un chasseur avec un fusil, on n'est pas content parce qu'il chasse en forêt, alors qu'on les foutrait. Un chasseur par réacteur, le problème serait réglé, vous voyez. Non, franchement,
oui.
Ah là là, on ne s'en lasse pas. Rendez-vous dès 15h30 avec Fabrice, Olivier de Castozon, Bernard Mabille, Isabelle Mergaud, Julie Leclerc et aujourd'hui Stevie Boulet, Louis Baudin. On se retrouve, parlez-nous du ciel, c'est l'automne, mais il y a de la douceur.
Il y a de la douceur et du soleil. Oui, l'automne qui commence en fanfare avec ce temps sec et ensoleillé depuis hier. Aujourd'hui, c'est la même chose. Donc du grand soleil, quelques brouillards ce matin à Auxerre, à Mulhouse, à Nevers ou encore à Guéret par exemple. Mais ça va vite disparaître cet après-midi. Donc du soleil pour tout le monde, quelques nuages près de la Manche sans conséquence. Même chose sur les Pyrénées. Peut-être une averse en fin de journée et encore. Et puis côté température, faut s'y faire. Hein. Grand écart entre ce matin où on est souvent entre 5 et 10 degrés, donc c'est frais. Et cet après-midi où ça sera très doux, 19 à 23, voire 24 degrés même dans la moitié nord, 25 à 28 dans le sud.
Louis est en forme, la météo aussi. Bonne
Surtout
journée à tous. Il est 7h30.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce jeudi 23 septembre. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. La réconciliation, c'est simple comme un coup de fil. Joe Biden et Emmanuel Macron se sont parlé hier pour la première fois depuis le début de la crise des sous-marins. Tout semble oublié. L'ambassadeur de France aux États-Unis retournera à Washington dès la semaine prochaine. Pourtant, Lionel Gendron, le président américain, a tout juste concédé qu'il aurait fallu un peu plus de dialogue.
Le ton était amical, a insisté la Maison-Blanche, mais Joe Biden s'est-il excusé, demande un journaliste américain. La porte-parole de la présidence esquive, souligne l'importance d'aller de l'avant. Le journaliste repose sa question. Jen Psaki botte encore en touche. Il n'y a pas eu d'excuse, en tout cas pas d'excuse officielle. La reprise du dialogue franco-américain était absente de pratiquement tous les journaux du soir aux États-Unis. L'incident est clos pour Washington, même si la colère de la France a surpris les Américains n'ayant pas l'habitude que leurs alliés leur résistent. Le comportement de la France peut être vu comme de la vanité ou du dépit, peut-on lire dans le New York Times, le quotidien qui explique le courroux de Paris ainsi. Les Français sont conscients qu'ils sont à la tête d'une puissance moyenne dans un monde dominé par plus puissants qu'eux.
Lionel Gendron, correspondant d'RTL aux États-Unis, a noté que le constructeur Naval Group travaille actuellement sur sa demande d'indemnisation. Il doit remettre une proposition chiffrée à l'Australie dans quelques semaines.
C'est le début de la fin du masque à l'école. Hein.
Oui, à partir du 4 octobre, les élèves pourront l'abandonner dans les départements où le taux d'incidence se stabilise en dessous de 50 pour 100 000 habitants. Une annonce que de nombreux épidémiologistes jugent prématurée et risquée. Cela concerne actuellement une quarantaine de départements. Depuis le début de l'épidémie, plus de 77 000 personnes sont mortes du Covid à l'hôpital. Et dans son classement annuel des hôpitaux, Le Point liste ceux qui ont subi la plus forte mortalité. Sans surprise, les hôpitaux de Paris occupent la première place, suivie par les hospices civils de Lyon. On compte ensuite 5 établissements de l'Est dans le top 10, notamment le centre hospitalier de Metz-Thionville. La directrice générale Marie-Odile Saillard réclame une totale réorganisation des soins hospitaliers.
Les hôpitaux en général, mais l'hôpital public en particulier, on peut dire qu'il aura payé le prix fort dans cette affaire. On a le sentiment aujourd'hui, alors je dirais pas qu'il est KO debout, mais il est quand même extrêmement marqué par ce qui s'est passé. On a déployé des trésors incroyables d'imagination, de solidarité. On a aujourd'hui, 18 mois plus tard, des équipes qui sont extrêmement marquées, qui sont fidèles, mais qui en même temps disent « on peut pas continuer comme ça, il faut trouver une autre modalité ».
La directrice de l'hôpital de Metz-Thionville dans les petits matins d'RTL avec Jérôme Florin. Arrêtons-nous maintenant sur ce document RTL. L'appel émouvant lancé par les proches d'Ibrahima, ce lycéen de 16 ans, tué d'un coup de couteau cette semaine au Lila en Seine-Saint-Denis. Une affaire de guerre de territoire. Un autre jeune de 17 ans a été interpellé. L'oncle d'Ibrahima affirme qu'il ne lui en veut pas.
On n'a aucune haine parce qu'Ibrahima était quelqu'un qui n'avait pas de haine. Ibrahima aurait pardonné à celui qui a fait cet acte. C'est pourquoi nous on pardonne. Et on lance un appel à tous les jeunes, toutes les mamans, quel que soit le quartier d'où ils sont, quelle que soit la ville d'où ils sont, quelle que soit leur couleur, on est tous Français. N'acceptons pas qu'on nous sépare, qu'on nous communautarise, qu'on nous stigmatise. On est tous pareils. Tout le monde veut que son enfant réussisse. Tout le monde a mal quand son enfant a mal.
L'appel de l'oncle d'Ibrahima au micro RTL d'Aurélia Valarié. Un cap est franchi, désormais plus de la moitié des Français ne croient pas en Dieu. Résultat d'un sondage IFOP, seuls 49% des sondés affirment avoir la foi. C'était 56% en 2011 et 66% en 1947.
Et on en reparle à 8h20 avec notre invité Frédéric Lenoir, spécialiste des religions. Au chapitre politique, Éric Zemmour porte plainte contre Paris Match.
Oui, l'hebdomadaire fait sa une sur le polémiste avec une photo où on le voit en train d'enlacer sa plus proche conseillère dans la mer. C'était lors de la promotion de son livre le week-end dernier dans le Var. Éric Zemmour est marié, il a 3 enfants et il participe aujourd'hui à un colloque sur la famille dans un grand rassemblement nationaliste à Budapest. Chez les Républicains, Xavier Bertrand apparaît de plus en plus comme le favori. Selon une grande enquête d'opinion commandée par le parti, le président des Hauts-de-France est préféré de peu à Valérie Pécresse, 53% contre 51%. Dans cette bataille, Nicolas Sarkozy n'a pas encore choisi son camp, mais il a eu un mot hier pour son ami Xavier.
J'ai beaucoup d'amitié pour Xavier. Il a été pour moi un très bon ministre, un ami qui était fidèle à des moments qui étaient difficiles. Xavier veut mener son ambition, je peux parfaitement le comprendre. J'admire les gens qui font de la politique. La présidentielle, c'est la rencontre d'un destin, d'un homme, d'une femme, avec les Français.
Nicolas Sarkozy au micro RTL de Franck Hanson. Les militants LR doivent choisir samedi le mode de désignation de leur candidat. 60% se disent favorables à un congrès.
Le football maintenant, une soirée pleine de buts et de fureur pour la 7e journée de Ligue 1.
Oui, soirée qui a vu le PSG s'imposer à nouveau à la dernière minute 2-1 contre Metz, la lanterne rouge, grâce à un doublé d'Hakimi. Un dénouement qui laisse l'entraîneur de Metz, Frédéric Antonetti, un peu amer.
Mes joueurs auraient mérité au moins le match nul par ce qu'ils ont montré, notamment au niveau de l'investissement. Ça n'a pas souri, voilà, ça fait partie du jeu. Paris Saint-Germain est une grosse équipe qui vous use mentalement, qui vous use physiquement. Donc après, en fin de match, on a essayé de préserver le résultat. On y est presque arrivé, mais pas complètement. On est en progrès dans beaucoup de choses, mais on est dernier. Donc ça ne se voit pas, donc il faut que je me taise.
Propos accueillis par Dimitri Ramelot. Les autres résultats, Marseille, le Dauphin a dû se contenter d'un match nul 0-0 face à Angers qui en profite pour monter sur le podium. Rennes a laminé Clermont 6-0. Strasbourg l'a emporté 1-0 à Lens. Victoire de Lorient sur Nice 1-0. Lyon confirme avec un succès 3-1 face à 3. Même score 3-1 pour Nantes face à Brest et 3-1 encore pour Monaco contre Saint-Etienne. 3 partout entre Montpellier et Bordeaux. Beaucoup de buts, je vous l'avais dit. Et Lille s'est relancé face à Reims 2-1. À noter des incidents après le match Angers-Marseille. Des supporters marseillais ont tenté de monter dans la tribune angevine. Et puis à Montpellier, un bus des supporters girondins est tombé dans un guet-apens. Ça s'est terminé en bagarre générale.
Merci Isabelle Choquet pour ce tout info. On se retrouve à 8h40 comme chaque jour pour la face cachée de la Une.
La face cachée du parfum aujourd'hui. L'intelligence artificielle vient y mettre son nez.
Merci. Rendez-vous est pris. Dans un instant, François Langlais s'inquiète de l'impact mondial des graves difficultés financières d'Evergrande. C'est le géant chinois de l'immobilier. A tout de suite pour l'Anglais Coup.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h38, Langlais Co avec vous, François Langlais.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
La faillite d'un des plus gros promoteurs de la planète inquiète largement le monde de la finance.
Oui, Evergrande, c'est le nom de ce promoteur immobilier chinois, écrasé par quelques 260 milliards d'euros de dettes auxquelles il ne peut plus faire face. Faillite probable donc qui a fait chuter les bourses du monde entier cette semaine parce que on craint un effondrement du secteur immobilier qui, par contagion, fragiliserait la finance mondiale à cause du réseau planétaire de prêts croisés. Crainte sans doute excessive, parce que le gouvernement de Pékin a les moyens d'éviter cet effet domino. C'est lui qui a provoqué la quasi-faillite d'Evergrande en lui coupant les vivres, pour effrayer les spéculateurs. Quand on veut faire peur aux singes, il faut tuer un poulet, c'est ce que disent les Chinois.
Ah oui.
Et lorsque les autorités estimeront que la punition a assez duré, bon, elles vont intervenir, elles devraient intervenir, le vrai risque n'est pas là.
Ah bon ? Il y a quand même un risque.
Oui, parce que cette faillite sonne la fin du miracle économique chinois et de l'hyper-croissance que le pays connaît depuis presque 40 ans. Parce que ce miracle n'était pas autre chose que le plus grand boom immobilier de l'histoire, causé par le plus grand exode rural de l'histoire. Des centaines de millions de paysans qui ont quitté les campagnes depuis les années 80 pour venir travailler dans les villes, notamment pour l'exportation. Oui. Il a fallu leur construire des logements, des routes, des écoles, des restaurants, des magasins. La croissance chinoise, c'était bien sûr les recettes de l'exportation, mais aussi et surtout ces milliards de mètres cubes de béton déversés sur la côte orientale du pays pour construire des mégalopoles.
Mais pourquoi tout cela se terminerait-il, François ?
Parce que Yves, comme toujours, il y a eu des excès déclenchés par la hausse considérable du prix des terrains. Une fureur de la construction. Il y a aujourd'hui tellement de logements vides en Chine qu'on pourrait héberger 90 millions de personnes supplémentaires. C'est plus que la population française. En plus, l'exode rural s'inverse avec le retour à la campagne des retraités, donc les villes fondent, et la population active, celle qui a la plus forte propension à acheter un logement, elle chute. Moins 7 millions d'individus par an à cause du vieillissement. Du coup, le prix des appartements, des terrains plonge. Les ménages se sentent donc moins riches, ce qui va peser sur leur consommation. Et puis, les autorités locales, ce sont les provinces, les municipalités, elles voient leurs moyens s'amenuiser parce que leurs investissements ont été financés en hypothéquant et en vendant des terrains dont la valeur ne cessait de progresser.
Alors, au bout du compte, quelles conséquences, quand même, cette explosion peut-elle, peut-elle avoir ?
Vous savez, en fait, la hausse des prix de l'immobilier a été le carburant de toute l'activité du pays. Donc aujourd'hui, si le gouvernement parvient à piloter le dégonflement progressivement, on va éviter le krach bancaire, qui est la conséquence habituelle d'un krach immobilier. Mais dans tous les cas, ça sera une croissance plus faible. Entre 3 et 4% par an pour la Chine, c'est désormais tout à fait vraisemblable. Contre 7% en moyenne sur la dernière décennie et plus de 10% sur la décennie précédente.
Tout cela est très impressionnant. Alors je retiens, quand on veut faire peur aux singes, il faut tuer un poulet. Proverbe chinois que nous a fait découvrir ce matin François Langlais. Merci François, on vous retrouve bien entendu sur le site rtl.fr. À demain matin. Il est 7h41, bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
Christiane Taubira, l'ancienne ministre de la Justice. Elle revient avec un recueil de nouvelles, ses morceaux de vie comme carreaux cassés aux éditions Robert Laffont. Et son engagement politique n'est jamais loin, mais où ?
A tout de suite avec notre ancienne garde des Sceaux, Christiane Taubira.
RTL Matin. RTL Matin. Avec Yves Calvi.
Il est 7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez ce matin notre ancienne garde des Sceaux, Christiane Taubira.
Bonjour Christiane Taubira.
Bonjour Alba Ventura.
Et vous publiez ces morceaux de vie comme carreaux cassés. Ce sont pour la plupart des morceaux de vie de femmes, morceaux de poésie. C'est un recueil de nouvelles, ce ne sont pas des témoignages que vous avez recueillis. C'est quoi exactement ? C'est une ode aux femmes ? C'est un appel à la liberté ? C'est quoi ?
C'est tout cela, sans aucun doute, parce que ce sont des figures féminines qui sont vraiment très, très dessinées, en tout cas qui ont des contours très clairs, très, très précis, abrupts, aigus pour certains de ces contours. Des instants dans la vie de ces femmes-là, ce sont des instants qui comptent, parce que ce sont des instants qui révèlent leur caractère profond, leur force, leur faiblesse, leur capacité de dérision face à leurs faiblesses, leur détresse, mais leur aptitude à surmonter ces détresses. Ce sont des personnages de femmes parfaitement vraisemblables, pas forcément vrais, mais parfaitement vraisemblables, parce que ce sont des bouts de vraie vie et de vraie personnalité.
Vous êtes inspirée de la vie ?
Ce sont des choses
de vous.
Voilà. Oui, bien sûr, ce sont des souvenirs enfouis aussi, des attitudes de femmes, des paroles de femmes que j'ai entendues lorsque j'étais enfant ou adolescente, des choses que j'ai observées très vite en passant. Ce sont de vrais moments de vie de femmes.
Mais vous aviez, l'intention, c'était de mettre les femmes à l'honneur parce qu'elles ne le sont pas suffisamment pour vous ?
Alors incontestablement, les femmes sont sujets. Dans toutes ces nouvelles, elles sont sujets. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas passives, elles ne subissent pas. Même dans la séduction, ce sont elles qui prennent l'initiative de la séduction. Elles ne le font pas juste comme ça pour le plaisir de séduire. Elles sont amoureuses et elles décident de séduire. Et elles choisissent de surmonter les obstacles et éventuellement de se soumettre à des contraintes parce qu'il y a des rapports de force dans la société, parce qu'il y a un rapport de domination sur la femme. Donc elles affrontent cela avec beaucoup de lucidité. Donc c'est une forme de liberté, c'est un hommage que j'ai voulu rendre à cette forme de liberté. Même lorsque les femmes ont l'air de jouer le jeu des hommes, elles ne sont pas dupes et ça, c'est une marque de liberté.
Parce qu'on en manque de liberté ?
Incontestablement, mais les hommes aussi en manquent, parce que les hommes aussi sont soumis à un système de valeurs codifiées qui leur impose parfois un certain nombre de choses, y compris d'être plus forts qu'ils ne sont, en tout cas en apparence, de jouer au matamor à l'extérieur alors qu'ils sont très faibles. les hommes sont comme ça, pas tous. Mais
pas
même
tous.
Ces hommes-là, il faut qu'on les aide, parce que ça n'a pas de sens de passer sa vie à montrer, à démontrer, ça n'a aucun sens. On doit passer sa vie à être et à devenir, donc qu'on soit un homme ou une femme. Mais c'est sûr que j'avais plus envie, à partir de la subjectivité de ces femmes, de parler des problèmes des femmes dans la société, de permettre que s'élèvent leurs propres paroles. Donc c'est la différence entre un essai, entre un plaidoyer et ces nouvelles, c'est que ces nouvelles permettent justement de faire émerger la subjectivité, l'affectivité de ces femmes.
Christiane Taubira, c'est une liberté d'être vaccinée ?
En tout cas... Alors, tant que le vaccin n'est pas obligatoire, c'est une liberté d'être vacciné. À partir du moment où il est obligatoire, la liberté a disparu. Donc, la question, c'est de savoir, est-ce qu'il faut maintenir la liberté ? Ça n'est pas une question simple.
Mais pourquoi vous n'appelez pas clairement à se faire vacciner ? Je n'arrive pas à trouver ça dans vos propos. Et notamment, vos concitoyens guyanais, parce que là-bas, le taux d'incidence est très fort, et beaucoup de gens refusent d'être vaccinés. Pourquoi ?
Je n'ai pas vocation à appeler à vacciner.
Bien sûr que si. Vous êtes un responsable politique.
Mais je suis un responsable politique qui n'est pas en exercice et qui, par conséquent, ne dispose pas des éléments d'information qui lui permettraient formellement, soit de donner une consigne, soit de considérer que, au regard de ces éléments d'information, je considère que je tiens un propos responsable. Et je regarde comment fonctionne la société. Et avant de culpabiliser les Guyanais, moi, je pense que les Guyanais doivent prendre prennent au sérieux la question de la santé. Mais la question du poids, de la légitimité, de la crédibilité de la parole publique est une vraie question. Et plutôt, moi je pense qu'on est au stade...
C'est pas un peu facile parce que finalement, vous êtes un responsable politique, peut-être pas en activité, mais vous avez une parole forte.
Oui,
vous
êtes parce que cette parole est forte, je ne la décrédibilise pas. Je pense qu'en Guyane, la question, ce n'est pas que moi je dise aux gens de faire. Je pense qu'il est temps qu'on pense à nommer une médiatrice ou un médiateur, parce que manifestement, il n'y a plus de capacité d'entente entre la parole officielle, donc les autorités sur place.
Quand même, vous avez vu le nombre de vaccinés, si. On sent que le message a été transmis.
Non, mais les choses se tendent dans les deux sens. Les choses se tendent, il y a une mobilisation, il y a des blocages.
Très peu de mobilisation.
Il y a des... Oui, non, mais la question est de savoir si c'est efficace ou
pas. Non, mais on écoute qui, ceux qui manifestent et qui sont 100 000, ou on écoute la majorité qui se fait vacciner ?
Donc vous me parlez de la France là pour l'instant ?
Oui.
Bah oui, non, moi j'étais en train de vous répondre sur la Guyane.
Donc, bah pardon, c'est la France.
C'est un malentendu, sans aucun doute. Mais il n'empêche que c'est une société à 10 000 km d'ici et qu'il se passe autre chose et que le taux de vaccination est pratiquement l'inverse de celui d'ici. Donc on ne peut pas faire la même analyse lorsqu'il y a 20% ou 40% de vaccination et on doit être à 80% ici à peu près,
oui,
ou au moins à 75%. Mmh. Donc on ne peut pas faire la même analyse, on ne peut pas non plus considérer que lorsque un certain nombre d'arguments sont posés dans le débat public, ils méritent le même traitement que d'autres arguments complètement orthogonaux.
Christiane Taubira, qu'est-ce qui vous retient d'être candidate à la présidentielle ? Vous avez vu qu'il y a des affiches, Taubira 2022, il y a des collectifs. Dans la plateforme citoyenne, pour une primaire populaire, vous êtes d'ailleurs celle qui a les faveurs des votes. Qu'est-ce qui vous retient ?
Je croyais avoir rendu les choses très très claires. Je pense très sérieusement que nous sommes dans une période pour la société française, mais aussi pour le reste du monde, d'abord l'Europe, mais vraiment très largement le reste du monde. Nous avons des incapacités flagrantes à réduire la violence du monde, à réduire les inégalités dans le monde, à faire en sorte que nous soyons dans des sociétés inclusives, dans des sociétés apaisées, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de divergence, ni de débat, ni même de dispute, mais qu'il soit possible de discuter, de prendre des décisions, de les accepter.
Ça, vous ne voulez pas l'endosser.
Je pense que nous ne sommes pas dans les conditions de le faire et que ce n'est pas avec plusieurs candidats à gauche que nous serons en condition de transformer cela. Donc,
être celle qui réunit tout le monde.
J'aurais pu, mais enfin, on ne fait pas de la politique avec des hypothèses.
Le débat Zemmour-Mélenchon ce soir, vous allez le regarder ?
Très probablement non.
Il a tort, Jean-Luc Mélenchon, de débattre
avec Zemmour ? Non, je n'ai pas à juger de la décision d'un homme politique et particulièrement d'un homme politique en activité et qui lui-même explique ses choix. Je n'ai pas à en débattre.
Pourquoi ? Mais qu'est-ce qui vous gêne ?
Qu'est-ce qui me gêne dans quoi ?
Dans ce débat.
Enfin, j'ai le droit ce soir de lire un bon livre, d'aller voir un bon film, d'aller voir une bonne pièce de théâtre, d'aller voir une bonne pièce à l'opéra.
Évidemment.
Que de me taper ça, enfin.
Évidemment.
Ça fait partie des libertés, Madame Ventura.
Et puisqu'on parle de livres, Christiane Taubira, on brûle des livres au Canada car ils sont jugés discriminatoires à l'égard des Indiens, comme Tintin en Amérique, Le Temple du Soleil, Astérix et les Indiens, Pocahontas, des livres d'enfants. Est-ce que vous soutenez cette démarche ou est-ce que vous dites non, on ne brûle jamais de livres, on explique ?
Symboliquement, évidemment, j'ai un immense problème avec le fait de brûler un livre. Donc moi, je pense que ça, c'est la solution de facilité. Alors, je connais la situation du Canada, je connais le traumatisme que subit la société actuellement en découvrant le traitement qui a été infligé à ce qu'on appelle les autochtones, donc les Amérindiens du Canada. Donc je comprends ce traumatisme-là et je vois que tout cela est recouvert par de la souffrance et voilà. Mais non, moi je pense qu'on peut expliquer, qu'on doit expliquer et qu'il faut accepter que les choses, qu'il y a eu des époques, qu'il y a eu des modes de pensée dominants. Je vois bien tous vos signes et je finis ma phrase. Je préfère qu'on explique plutôt qu'on brûle.
Très bien. Merci beaucoup Christiane Taubira. Ces morceaux de vie comme Caroucassé chez Robert Laffont.
Des Merci femmes libres et des hommes qui jouent les matamores alors qu'ils sont faibles, vient nous dire notamment Christiane Taubira, qui réclame par ailleurs, je le rappelle, une forme de médiation, si j'ai bien compris, pour la vaccination en Guyane aujourd'hui. Merci à l'une et à l'autre. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Comme chaque jour, Christiane Taubira, restez avec nous puisque vous serez dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un instant.
RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
Il est 7h55. Bonjour, cher Philippe.
Bonjour, bonjour à tous. Bonjour.
Christiane Taubira reste pour votre chronique. Elle est notre ancienne garde des Sceaux et ça tombe bien car je crois que récemment vous avez eu affaire à la justice, Philippe.
Alors, pas directement moi. J'ai été victime d'un cambriolage en juin. Et moi qui enchaînais des sarcasmes sur l'inefficacité de la police et le laxisme judiciaire, j'ai pas eu de bol. Ils ont retrouvé mon brigand en 3 jours et il est en tôle pour 1 an. Donc je vais ponctuellement fermer ma gueule.
Oui, voilà. Ce serait bien.
Et c'est vrai qu'on dit le temps judiciaire est plus lent, et c'est une bonne chose, parce que moi, pendant les 2 heures après le cambriolage, j'étais comme mon Éric Zemmour, j'étais pour la peine de mort, mais pas philosophiquement. Hein. Je voulais vraiment que le monsieur décède. Je trouvais même que les talibans qui coupent les mains des voleurs bien dégagés au-dessus des poignets, c'est des mous du zboub. Et puis après, je me suis calmé. Voilà, je suis retombé, je suis redescendu.
Christiane Taubira a déclaré récemment qu'on entendait trop Éric Zemmour.
Eh ben, je suis bien d'accord avec vous. Voilà, il y a d'autres sujets dans l'actu. Il y a les sous-marins, il y a le pass sanitaire, il y a votre livre, il y a plein de... Excusez-moi, pardon. William qui m'amène Paris Match. Moi, j'avais promis de ne pas parler d'Éric Zemmour.
Oui.
Mais en même temps, Zemmour en slope en couve à la plage. On a tout de suite envie d'en parler, au-delà du plaisir des yeux, parce qu'il y a un plaisir déjà visuel quand on voit Érico en slip. Bientôt le calendrier, Érico. Alors, peut-être que mon Éric était en train de bosser sur les sous-marins.
Peut-être
qu'il était en immersion, on ne sait pas, on ne le juge pas. Enfin, il a quand même plus un corps à costard qu'à slip. C'est pas Florent Manaudou, quoi, au niveau des pecs.
Écoutez, Paris Match se défend de tout voyeurisme et explique que c'est juste un reportage sur Zemmour, voilà, et sa proche conseillère, Sarah Knafo.
Sa proche conseillère. Mais il n'est pas marié, mon Rico, à la base, non? Toi, tu vas te faire houspiller en rentrant à ta maison. Mais c'est un beau mec, Éric Zemmour. Voilà, on ne peut pas juger. C'est comme Ben Affleck, DiCaprio, oui. Éric Zemmour. On ne peut pas leur demander la fidélité. Il y a un niveau de beauté, on ne peut pas.
Bon, alors, assez parlé d'Éric Zemmour. On va parler politique et du débat très attendu ce soir entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour.
Vous voulez nous énerver, notre invité? Vous,
oui,
voulez chafouiner Christiane?
Oui.
C'est un débat déjà présenté par Maxime Switek. Qui a validé le choix de ce petit branleur de Maxime Switek? Enfin, quelle intimité, Monsieur Calvi. Quand on a Monsieur Calvi à disposition sur BFM, hein, on a l'expérience, le charisme, la finesse d'esprit, naïf Calvi. Mais Fougiel fait n'importe quoi. Puis en face de BFM, il y a mon Thomas Soto et Maléa Salamé.
Oui.
Les pauvres, ils co-présentent le débat Pécresse-Darmanin. D'un côté, Mélenchon-Zemmour. France-Brésil, de l'autre, Pécresse-Darmanin. Guingamp-Châteauroux.
Bon, est-ce que vous... Est-ce que vous allez regarder le débat, Philippe?
Probablement, oui.
Désolé, Christiane Taubira nous a dit non, elle a autre chose
obligé,
à faire.
Ben oui, je suis obligé, je suis un professionnel. Même s'il y a peu de chance, il y en a un qui réussisse à convaincre l'autre. Hein, Mélenchon ne va pas dire au bout d'une heure à quart « Non, mais autant pour moi, Éric, t'as raison. » Non, non, c'est les immigrés, le problème, t'as raison, allez hop, ça dégage. Non, moi je suis surtout de savoir comment mon Rico Zemmour va parvenir à nous démontrer que L'immigration est une des causes majeures du réchauffement climatique et des inondations dans le Gard.
Ah oui.
Il nous démontrera sûrement aussi que les immigrés sont responsables de la rupture du contrat entre la France et l'Australie. Et surtout, pourquoi les immigrés nous retardent sur la conquête spatiale.
Ça ne va pas être simple. Hein.
Mais oui, mais il va y arriver à trouver un lien.
Christiane Taubira a déclaré qu'elle ne serait pas candidate à la présidentielle de 2022. Elle vient de le confirmer au micro d'Alba. Ça vous chagrine, Philippe ?
On se dit les choses.
Oui.
On est sur RTL, on est sur une radio de gauche, centre-gauche. On est à gauche de CNews, on va dire.
Sûr, voilà. Oui.
Moi, je trouve dommage que vous ne vous présentiez pas. Pourtant, ce n'est pas le bilan de François Hollande qui vous met une grosse pression. Hein. Christiane Taubira, vous êtes une femme noire de gauche, féministe, défenseuse des droits LGBT et des minorités. En fait, vous êtes Zemmour, mais à l'envers. Voilà. Zemmour, l'auteur...
Je ne savais pas qu'on insultait ici.
Zemmour, l'auteur du premier sexe, hein, et nous, dans la valise, on fait gagner le manuscrit de deuxième sexe.
Ah bon ?
De SDB. Salle de bain, sûrement. Ou Simone de Beauvoir, peut-être, je ne sais pas. On précisera aux éditions des Sèvres. Voilà, et si je rajoute ça dans la valise, et je finirai par cette sublime chanson que Claude Nougaro vous a consacrée, à Taubira, Taubira. Tout recommencera, Taubira, Taubira.
L'amour c'est fait pour ça, tu verras, tu verras. Je ferai plus le con,
l'œil de Philippe Cavrivière.
Ah ben voilà, voilà. Chico Buarque, Nougaro quand même, hein.
Ta maison avec des tuiles bleues.
Merci d'être resté avec nous, Christiane Taubira. Merci à Philippe.
Merci
et ce sera la valise RTL, ce sera cet après-midi chez nos amis des Grosses Têtes, hein, je le précise. En quelques mots, notre météo, Louis Bodin.
Bah oui, avec du soleil encore aujourd'hui pour tout le monde. Hein. Je vois les premières images satellites qui montrent le ciel presque totalement dégagé. Quelques brumes, brouillards ici ou là. Mais tout ça va vite disparaître pour laisser cet après-midi donc du grand soleil, sauf près de la Manche, où là on aura quelques nuages supplémentaires, ou encore sur le relief pyrénéen, avec un tout petit risque d'averse. Ouais. Du côté température, grand écart entre ce matin, où on est souvent entre 5 et 10 degrés, et cet après-midi, où nous atteindrons 19 à 24 degrés dans la moitié nord et 25 à 28 degrés dans la moitié sud.
L'automne est doux et ensoleillé aujourd'hui. Merci Louis Bodin, RTL, il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
À la une, la Ligue 1 une nouvelle fois débordée hier soir par des supporters.
La pelouse envahie à Metz et à Angers. Le caillassage d'un bus à Montpellier. Il y a 16 blessés. La Ligue doit-elle, peut-elle interdire tout simplement les déplacements de supporters? Nous poserons la question à Philippe Sansfourche. Les ravages du gaz hilarant, sans doute à l'origine d'un accident grave de la circulation à Paris. Nous allons y revenir. À suivre également notre dossier RTL sur ces Français qui ont perdu la foi. C'est une première dans notre pays. Les croyants sont désormais minoritaires. La rançon, sans doute d'un certain succès. Éric Zemmour en une de Paris Match ce matin en maillot de bain. Collet serré avec sa jeune conseillère. Le polémiste porte plainte. Et puis, l'incroyable triomphe des mangas. Ces bandes dessinées japonaises qui représentent, écoutez bien, la moitié des produits achetés avec les chèques culture.
Cyprien Signy, votre surf de l'info.
Avec une radiographie du duel chez les Verts pour la primaire.
On se retrouve dès la fin du journal.
RTL Matin.
Il est 22h50 hier soir au stade Raymond Coppa d'Angers, alors que la fin du match 0-0 face à l'OM vient d'être sifflée. Une centaine de supporters marseillais décident d'aller en découdre avec la tribune angevine. Vous entendez le stadier tenter de faire revenir le calme. Incident également à Metz où d'autres supporters ont tenté eux aussi de pénétrer sur la pelouse. Et puis il y a ce bus caillassé à Montpellier à l'intérieur des supporters bordelais. Bilan 16 blessés. Bonjour Philippe Sansfourche.
Bonjour.
Ça fait beaucoup pour une soirée et pour un début de saison.
Oui, incident aussi multiple que varié. Jet de projectiles, interruption de match lors de Montpellier-OM le 8 août. Une semaine plus tard, les graves altercations à Nice entre supporters et joueurs de l'OM sur la pelouse. Et puis Lens-Lille le week-end dernier ou encore Rennes-Nantes auparavant. Bagarre à l'intérieur ou en dehors du stade. La violence est croissante partout en France depuis le retour du public en tribune après la crise sanitaire.
Alors question ce matin, Philippe, elle risque peut-être de froisser certains fans de foot. Au-delà des sanctions prises au coup par coup, la Ligue peut-elle tout simplement interdire les déplacements de supporters ?
Alors, elle peut imposer la fermeture des parkages visiteurs, comme elle vient de le faire pour les supporters lillois. Mais pour l'interdiction de déplacement au sens strict, c'est une décision administrative prise au coup par les préfets concernés en amont des matchs. Pour élargir et généraliser cette interdiction, il va falloir une volonté politique de plus grande ampleur. La ministre déléguée au sport, Roxana Maracineanu, a parlé ces derniers jours de renforcement des sanctions individuelles pour ne pas pénaliser le plus grand nombre. Pas sûr que cette position reste longtemps tenable au vu de la répétition des incidents.
Merci Philippe Sanfourche.
Bon, vous allez quand même nous donner les résultats de cette 7e journée de championnat parce qu'il y a eu plein de buts hier soir.
Hein. Absolument, à commencer par Rennes qui a laminé Clermont 6-0. Strasbourg l'a emporté 1-0 à Lens. Victoire de Lorient sur Nice 1-0 également. Lyon confirme à 3 avec un succès 3-1. Même score 3-1 pour Nantes face à Brest et pour Monaco contre Saint-Etienne. 3 partout entre Montpellier et Bordeaux. Lille s'est relancée face à Reims 2-1. Même score pour le Paris Saint-Germain face à Metz. Paris qui reste en tête loin devant. 7 victoires en 7 matchs. Marseille est 2e, Angers 3e.
On regarde ce matin du gaz hilarant, sans doute à l'origine d'un accident de voiture à Paris.
Hein. 3 personnes sont toujours ce matin hospitalisées en urgence absolue. 3 piétons percutés mardi soir sur les Champs-Élysées par une jeune conductrice qui a perdu le contrôle de son véhicule. Elle venait d'inhaler quelques minutes auparavant une bonbonne entière de gaz. Au-delà des effets euphorisants façon drogue ou alcool, le protoxyde d'azote, ce gaz que l'on trouve dans le commerce, peut avoir des effets secondaires terribles. Exemple, avec cette jeune Lyonnaise de 15 ans qui a testé une fois le produit sous forme de petites capsules. Elle en fait encore aujourd'hui des cauchemars. Frédéric Perruche.
Marie a encore du mal à parler de cette soirée entre copines, entre collégiennes, très ordinaire, jusqu'à l'inhalation d'une seule capsule de gaz hilarant, achetée tout simplement en grande surface.
Ça fait mal à la tête et on marche un peu pas trop droit. Enfin, on a un peu la tête qui tourne, on rigole pour rien. Je rigolais pour rien, au début, ouais. Et après, j'ai commencé à sombrer, quoi.
Et le mot n'est pas trop fort, en quelques minutes, l'adolescente s'est littéralement effondrée.
C'était horrible, les hallucinations, c'était horrible. C'est passé une mauvaise soirée, j'ai fini dans la douche en train de pleurer. J'ai fait un bad trip, clairement. T'as des côtés sombres, genre t'as envie de mourir, t'as envie de tailler les veines. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vécu et franchement, plus jamais. Ça m'a détruit.
Une crise de panique incontrôlable qui a effrayé ses copines.
Elle a tapé une grosse crise. Donc, dans l'état dans lequel elle était, ça faisait peur. On a dû appeler son meilleur ami, son père. On a dû appeler quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose, parce que nous, on était 4 filles, et à nous 4, on n'arrivait pas à la calmer. Mais c'était la première fois que je la voyais pleurer, crier comme ça, et plus jamais. Genre vraiment plus jamais.
Et pour Marie, au-delà de cette soirée cauchemardesque, les effets très indésirables du protoxyde d'azote ont duré plus de 48 heures.
Un reportage signé Frédéric Perruche. Les députés ont approuvé hier soir en première lecture le renforcement des peines pour les violences commises à l'encontre des forces de l'ordre. Leurs auteurs pourront encourir désormais jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Décrocher un portrait du président de la République peut être considéré comme une forme de liberté d'expression. C'est en tout cas ce qu'a considéré hier la Cour de cassation, saisie par plusieurs décrocheurs, militants écologistes, condamnés pourtant en première instance puis en appel. Ils devront donc être rejugés.
Il est 8h06, c'est un fait. Depuis plusieurs années, la religion ne cesse de perdre du terrain en France et une nouvelle étude vient ce matin le confirmer.
Un sondage IFOP pour Agir, l'association qui regroupe les journalistes spécialistes des religions, une large enquête sur les cultes, les pratiques et les habitudes des Français, et c'est l'objet ce matin de notre brigade RTL. Bonjour Sébastien Rouxel.
Bonjour.
D'après ce sondage, un cap symbolique vient même d'être franchi. Moins de la moitié des Français croient désormais en Dieu.
49% pour être précis, moins 7 points en 10 ans. On croit de moins en moins en Dieu parce que l'on s'identifie de moins en moins à une religion, la faute notamment aux prises de position des cultes dans les débats de société. Cela a pu jouer un rôle de repoussoir vis-à-vis des croyants les moins convaincus, comme Méliana, ancienne catholique.
Je reproche à l'Église d'être trop archaïque et trop fermée d'esprit. Par exemple, le mariage pour tous, il n'est pas accepté dans l'Église. La place de la femme, elle n'est pas très valorisée non plus. Et donc tout ça, ça m'a mis en colère, ça m'a un peu dégoûtée et je me suis mise à ne plus croire en Dieu du tout.
L'autre raison qui peut expliquer ce recul de la foi est propre au catholicisme, ce sont les scandales de pédophilie et l'omerta qui a régné pendant longtemps au sein de l'Église à ce sujet.
Est-ce qu'il y a un rapport, Sébastien, entre l'âge et la religion ? Est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui que les jeunes sont moins croyants que leurs parents ?
Eh bien non, c'est même le contraire. Les moins de 35 ans croient un peu plus en Dieu que les 35-64 ans. On observe en fait un regain de spiritualité chez les plus jeunes, moins épanouis dans la société de consommation. Ils se posent des questions sur les effets néfastes du progrès économique, sur sur la protection de la planète. Et puis l'autre raison majeure, c'est le développement de l'islam en France. Les jeunes musulmans sont globalement plus pratiquants que leurs parents.
La brigade RTL ce matin a été signée Sébastien Rouxel.
Et donc clairement, c'est le dieu des chrétiens qu'il semble en recul. On en débattra avec le philosophe Frédéric Lenoir à 8h20. Il est spécialiste des religions et sociologue.
La fin du masque à l'école primaire, ce sera le 4 octobre, uniquement dans les départements les moins touchés, à savoir ceux où le taux d'incidence est inférieur à 50 pour 100 000 habitants. Une quarantaine de départements sont aujourd'hui concernés, essentiellement des zones rurales où le virus circule moins.
Vous le savez, Éric Zemmour porte plainte contre Paris Match, l'hebdomadaire qui publie en une des photos du polémiste à la plage accompagné, je cite, de sa très proche conseillère. On y revient dans un instant.
RTL Matin.
RTL 8h10, la suite du journal de Dominique Tenza. Éric Zemmour a donc choisi de porter plainte contre l'hebdomadaire Paris Match, qui consacre ce matin sa une au polémiste et à sa conseillère.
Et plusieurs photos en maillot de bain, en peignoir et un texte qui n'affirme rien, mais qui laisse très clairement sous-entendre la nature des relations entre les deux. Un reportage photo qui suscite en tout cas de nombreux commentaires. Benjamin Sportouche, même si Éric Zemmour n'a semble-t-il pas vraiment cherché à se cacher des photographes.
Oui, selon nos informations, ces photos ont certes été prises à l'insu d'Éric Zemmour, mais sur une plage publique de la Seine-sur-Mer samedi dernier, pas loin de Toulon. C'est là que le polémiste a entamé sa tournée de signature en forme de meeting pour son dernier livre. Alors qui est Sarah Knafo, que l'on voit sur ces clichés intimes de Paris Match? C'est la conseillère d'Éric Zemmour, sa plus proche collaboratrice. À 28 ans, la jeune femme est énarque. En poste à la Cour des comptes, elle vient de quitter la prestigieuse institution. Ainsi, signe supplémentaire d'une possible candidature à l'Élysée. On l'a d'ailleurs vu récemment accompagner le polémiste sexagénaire dans de nombreux déplacements. Alors cette publication intervient à la veille de la participation d'Éric Zemmour à un colloque sur les valeurs de la famille en Hongrie. L'éditorialiste par ailleurs marié, père de 3 enfants, a décidé de porter plainte contre Paris Match. « Je ne me laisserai pas intimider », a-t-il tweeté hier soir.
Benjamin Sportouche, Éric Zemmour qui, ce soir, débattra chez nos confrères de BFM TV face à Jean-Luc Mélenchon. L'extrême droite identitaire face à la gauche radicale. Deux visions radicalement opposées et un débat qui s'annonce musclé. Xavier Bertrand, lui, arrive en tête, mais une courte tête du sondage interne commandé par les Républicains. Pour les militants du parti, il incarnerait, juste devant Valérie Pécresse, le meilleur candidat l'an prochain.
Souvenez-vous, nous avions évoqué il y a quelques jours ces livres détruits au Canada, brûlés dans des écoles, à l'occasion d'une cérémonie tout à fait particulière.
Oui, une cérémonie de purification au cours de laquelle des BD d'Astérix notamment, de Tintin ou encore de Lucky Luke avaient été brûlées car elles véhiculaient, selon les dirigeants de cet établissement, des stéréotypes sur les Indiens, les premiers habitants d'Amérique. Des images qui avaient beaucoup choqué. Contactée par RTL, Suzy Kiss, membre du conseil scolaire, assume pourtant et ne regrette rien.
Si on laisse ces livres-là dans les bibliothèques, il y a un enseignant pour 30 enfants. Ils n'ont pas le temps de s'assurer que chaque enfant a un livre. S'ils ont un livre qui a un problème, qui vont discuter avec leur enseignant. Ce n'est pas possible. C'est trop à demander, ça. Si on laisse les livres là, ben là, on crée une nouvelle génération qui va faire face à ces stéréotypes-là.
À propos recueilli par Alexis Gacon.
Et nous retrouverons d'ailleurs Alexis tout à l'heure, notre correspondant, pour évoquer ce sujet à 8h30.
Après la crise, la réconciliation entre Paris et Washington, si l'on en croit en tout cas la teneur du communiqué publié conjointement hier soir par l'Élysée et la Maison-Blanche, à la suite du coup de téléphone entre Emmanuel Macron et Joe Biden. L'objectif était de rétablir la confiance après la rupture du contrat sur les sous-marins. Les deux pays promettent plus de dialogue désormais. Paris renvoie son ambassadeur à Washington. Les États-Unis promettent de renforcer leur présence au Sahel.
Enfin, ce chiffre, pour terminer, qui vient démontrer une nouvelle fois le succès des mangas auprès des jeunes lecteurs.
Et selon l'enquête réalisée par RTL, écoutez bien, la moitié des produits culturels achetés avec le fameux chèque culture, 300 euros distribués pour l'instant à 700 000 jeunes de 18 ans, quasiment la moitié, 47%, sont des mangas, Laurent Marsic.
Et l'engouement est tel que certains libraires ont rebaptisé le pass culture en pass manga. En moyenne, un jeune utilisateur du pass achète 13 livres pour environ 115 euros. 3 livres sur 5 sont donc des mangas. Pour plus de la moitié de ces jeunes, ces bandes dessinées japonaises représentent même un achat unique, 300 euros. Une tendance qui n'étonne pas Elsa Lafont, la directrice générale des éditions Michel Lafont, qui s'est lancée dans le manga en 2016.
C'est des chiffres vertigineux et en fait qui ont complètement capté le marché du jeune adulte.
En tête des mangas plébiscités dans ce Pass Culture, la série One Piece, des histoires de pirates née en 1997. 100 tomes vendus à près de 500 millions d'exemplaires dans le monde, 25 millions rien que pour la France. Il est édité chez Glénat, dont Satoko Inaba est la directrice du département manga.
Sur le tome 1, ne serait-ce qu'en 2020, on a eu une croissance de 89%. Et le Pass Culture est peut-être un élément qui leur a permis de s'atteler à une série.
Et le manga s'offre même une deuxième première place dans ce Pass Culture, côté offre numérique, avec un abonnement à une plateforme de bande dessinée spécialisée dans les mangas et les comics.
Le triomphe du manga, impressionnant. Laurent Marsic.
On se retrouve à 9h pour le point de l'actualité. À tout à l'heure, Dominique Tenza. Dans un instant, Cyprien Signy surfe avec le duel des verts.
RTL Matin,
le surf de l'info.
Cyprien Signy.
Cyprien, vous surfez ce matin sur la mécanique du duel chez les Verts. Hein. C'est compliqué.
Oui, second tour de la primaire ce week-end. Et on va pas se mentir, dans le clan Jadot, ça doit ressembler à ça.
Le patron ?
On est mal.
On est même très mal.
Mal, car Sandrine Rousseau, 25% au premier tour contre 27% pour Jadot, a créé la surprise avec une ligne assez iconoclaste, faut bien le reconnaître.
Ce que je porte, ce sont des idées de gauche. Ce que je porte, c'est une écologie radicale. Mais la radicalité, aujourd'hui, est une nécessité.
Oh, radical. Disons que si vous aimez la voiture, bon...
Il faut rendre les conditions de circulation et les conditions de parking plus difficiles. Je sais, c'est pas facile à entendre. Et je sais, c'est pas agréable à entendre.
Non, ça va, on va se débrouiller. Bon, oui. Louis Baudin va se mettre au vélo. Oui. Et puis, dans cette époque où le subversif est à la mode, elle est dans son couloir, Sandrine Rousseau. Ça fait des années qu'on nous dit que les JO à Paris seront écolos, que ça va créer plein d'emplois, que c'est super. Eh bien, elle explique.
Je suis contre les Jeux Olympiques tels qu'ils sont actuellement. Les Jeux Olympiques qui font la part belle à la publicité, à une économie marchande. Des Jeux Olympiques décroissants, ce serait très intéressant.
Ah bah oui, super. Et ça cartonne chez les Verts. Bon, après, elle n'est pas tout le temps disruptive non plus. Hein.
Profondément, moi, présidente de la République, je préfère la paix à la guerre, en fait.
Ouais, alors non, là, c'est... Ah. La guerre, c'est mal. Là, on est chez Miss France, là. N'empêche qu'elle a complètement pris la confiance, Sandrine.
Ce que je vous promets, c'est que je serai au second tour de la présidentielle. Mais bien sûr.
En attendant, on sent que chez Yannick Jadot, le pragmatique, le consensuel, on a dû lui dire...
Muscle ton jeu. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Tu vas avoir des déconvenus parce que t'es trop gentil.
Ouais, bouge-toi, mon Yannick. Du coup, le gars, bah, ça fait une semaine qu'il fait le tour des plateaux en disant...
L'écologie que je porte s'inscrit dans l'histoire de l'écologie. Avec sa radicalité, il y a de la radicalité.
Ouais, moi aussi, je suis un radical. Tout faire pour faire oublier le costard de politique à deux doigts de débouler avec des tatouages au henné, des dreadlocks, en déroulant son CV d'ancien combattant écolo, mon Yannick, dites donc.
Et ben moi, dès les années 90, on était là pour dire attention à cette mondialisation. Je l'ai porté en Afrique avec les paysans. En Asie, avec les femmes opprimées. Je l'ai porté à Greenpeace. J'ai arraché des OGM.
Voilà, il a arraché des OGM, mon Yannick. Là, on est dedans. C'était un fou, Yannick, avant.
J'ai pas de leçon à recevoir sur la gauche ou sur la radicalité, Yves Calvi. Enfin...
Mais oui, non, Yves Calvi, enfin, diantre. Et c'est pas tout, hein.
Moi, j'ai fait la campagne pour préserver le thon rouge en Méditerranée. J'ai reçu des boulons, des pêcheurs.
Et là, elle était où, Sandrine, pendant que mon Yannick recevait des boulons sur la tête, hein. Alors, nouvelle radicale ou ancien combattant, bah, résultat dimanche prochain.
Oui, et nous, on vous retrouve à 18h40 pour défaire le monde avec votre équipe.
Absolument, à ce soir.
Bonne émission et à ce soir. Dans un instant, nous allons nous intéresser à notre dossier du jour sur RTL. Ce qu'il faut bien appeler la crise de foi des Français, c'est à prendre au premier degré. Pour la première fois, cette fois-ci avec un S, ils sont majoritaires dans la dernière enquête d'opinion à affirmer qu'ils ne croient pas en Dieu, sans doute le Dieu des chrétiens d'ailleurs. Nous sommes en ligne avec Frédéric Lenoir, philosophe et historien des religions.
Calvi, RTL Matin.
Il est 8h23. Bonjour Frédéric Lenoir.
Bonjour Yves Calvi.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes philosophe, historien des religions. Et pour la première fois dans cette enquête qui vient d'être publiée par l'IFOP, une majorité de Français dit ne pas croire en Dieu. Est-ce que ça vous surprend? Moins 7 points en 10 ans. Qu'est-ce qui explique selon vous cette crise de foi des Français?
Alors déjà, ça fait, je pense, à peu près 30 ans que je me livre à cet exercice et je dis à peu près la même chose à chaque fois. C'est qu'on assiste à une lente et progressive érosion de la religion dans toutes les sociétés européennes. Donc là, c'est la continuation d'une tendance longue, effectivement. Donc, bon, ce qui est intéressant, c'est que c'est pour la première fois, on passe sous la barre des 50%. Alors, je dirais que la première remarque, c'est d'abord une crise des religions institutionnelles. C'est-à-dire, ce sont effectivement les gens qui sont de moins en moins présents dans les religions, dans les églises, et surtout dans les églises chrétiennes.
On parle du Dieu des chrétiens. Est-ce que c'est pas justement un des biais qu'on a ce matin pour aborder cette question ?
Tout à fait. Parce qu'effectivement, si on regarde le sondage, on s'aperçoit, par exemple, que les musulmans sondés sont croyants à, je crois, 97%. Enfin, les scores sont pas du tout les mêmes.
Notamment chez les jeunes, hein, où ça monte.
Tout à fait, absolument. Donc c'est effectivement le Dieu des chrétiens. Et je dirais que, en même temps, ce type d'enquête est toujours biaisé par un autre biais.
Oui.
C'est que, au fond, lorsqu'on dit Dieu, on a une représentation du Dieu des religions.
Oui.
Et aujourd'hui, moi qui ai beaucoup étudié les nouvelles formes de religiosité, de spiritualité, ben on s'aperçoit que il y a beaucoup de gens qui vous disent être sans religion, ne pas croire en Dieu, c'est-à-dire le Dieu de la Bible ou le Dieu des chrétiens, et en même temps dire mais je crois dans une énergie, dans une force, dans un divin personnel, dans une forme de panthéisme à la Spinoza, etc. Donc finalement, il y a plein d'autres croyances dans d'autres formes de Dieu possibles que le Dieu des chrétiens. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas le savoir exactement qui croit en Dieu, qui ne croit pas en Dieu. Oui. Qu'est-ce que vous mettez derrière le mot Dieu ? C'est ça la grande question.
Mais justement, c'est passionnant ce que vous nous dites, parce que d'une certaine façon, vous nous dites ce que par commodité nous appelons nous ce matin le Dieu des chrétiens, parce qu'il était majoritaire jusqu'ici dans notre pays,
voilà.
Est peut-être remplacé par d'autres formes de spiritualité et de croyance avec un S.
Tout à fait. C'est pour ça que j'avais déjà, il y a 20 ans, publié un livre qui s'appelait « Les métamorphoses de Dieu ». Et ça veut dire qu'on s'aperçoit dans des enquêtes plus fouillées que finalement, on passe progressivement en Europe, soit à l'incroyance, soit à la croyance dans un, on va dire, d'un Dieu extérieur à un Dieu intérieur, d'un Dieu personnel à un divin impersonnel. Donc, on voit des évolutions, en fait, de la croyance, des contenus de la croyance qui sont beaucoup plus durs à mesurer. Et si on assiste de manière générale à un recul de la religion, ça veut pas dire qu'il n'y a plus de quête de sens ou de quête de spiritualité chez les Français.
Alors c'est la question que j'allais vous poser, la question du sens et de la spiritualité reste d'actualité, sans se poser de questions là pour le coup.
Absolument, et on le voit à plein d'indices.
Mm-hmm.
Par exemple, le Nouvel Obs avait fait il y a quelques années une enquête sur les essais qui se vendaient le plus, et ils avaient constaté qu'il y a 25 ans, c'était les essais de politique et d'économie, et depuis une dizaine d'années, ce sont les essais qui parlent de spiritualité, de philosophie existentielle.
C'est un phénomène mondial, ce recul de la religion. C'est une particularité française, selon vous. Vous nous avez dit plusieurs fois, en tout cas, le modèle européen. Donc, est-ce que vous l'avez circonscrit là ou on a une vision planétaire ? Pardonnez-moi.
Non, on a une vision planétaire. C'est effectivement très européen. Aux États-Unis, il y a un léger recul, mais qui est beaucoup moins sensible. On a encore, je crois, à peu près 90% de croyants aux États-Unis. Et puis, dans la plupart des autres pays du monde, où les formes du divin sont très différentes. Parce qu'effectivement, en Asie, par exemple, dans le bouddhisme, il n'y a pas un dieu comme on le connaît. Mais la religiosité, la croyance, et notamment la croyance, par exemple, dans une vie après la mort, reste très majoritaire dans le monde. On pourrait dire que l'essentiel des humains, plus de 80% des humains, croient encore en Dieu. C'est donc une exception européenne.
J'entendais ce matin chez Jérôme Florin, dans nos petits matins, un curé qui expliquait que, en gros, oui, il y avait moins de monde dans les églises, mais qu'à chaque fois qu'il y a un décès, on finit par revenir quand même dans un lieu comme une église ou un temple pour dire adieu aux défunts. Qu'est-ce que ça nous dit de la situation ?
Certainement, c'est effectivement le lien avec
la mort. Pas le dimanche, mais dans les événements importants.
Voilà, les événements importants. Bon, il y a encore un certain nombre de mariages religieux. Les baptêmes s'effondrent, hein, globalement. Par contre, effectivement, le deuil, c'est un moment où les gens ont encore peut-être besoin d'un rituel et d'un rituel religieux, parce que c'est un moment bouleversant, c'est un moment déstabilisant. C'est la grande question, y a-t-il une vie après la mort ? Donc là, on est effectivement sur une religiosité, d'ailleurs, qui nous rappelle que la religion est née comme ça. Les premières traces dans l'histoire humaine de religiosité, ce sont les gens qui fleurissent les tombes de leurs morts il y a plus de 100 000 ans. Et je crois que c'est ce qui perdurera sans doute le plus dans la religiosité.
On peut essayer de se projeter dans l'avenir. Qu'est-ce que vous voyez poindre et est-ce qu'il y a là aussi des surprises ou peut-être des mouvements ou des façons de s'intéresser à la spiritualité qu'on n'a peut-être pas encore découvert ou identifié et que vous, qui travaillez là-dessus depuis très longtemps, avez perçu ?
Alors certainement, alors moi, bon, il y a un éclatement du religieux qui s'individualise de plus en plus. C'est-à-dire au fond, autant d'individus, autant de religions, autant de croyances, autant de manières de croire, autant de manières de pratiquer, ou de ne pas pratiquer, ou de ne pas croire. Donc les choses deviennent de plus en plus complexes parce que atomisées, individualisées. Et en même temps, plus on va vers cette société individuelle, plus il y a un besoin aussi de communauté. Donc on voit des phénomènes inverses, et notamment on le voit notamment dans le monde musulman, on le voit dans des minorités, des gens qui sont minoritaires dans une religion dans un autre pays, oui. où la religion est un facteur identitaire. Ce qui fait qu'on voit un mouvement contradictoire à l'échelle planétaire. D'un côté, globalement, une érosion de la religion institutionnelle, une individualisation de la croyance, et d'un autre côté, des phénomènes plus ponctuels de retour à la religion pour des raisons identitaires.
Une religion comme une spiritualité individuelle, personnelle et identitaire, nous avez-vous dit. Merci beaucoup Frédéric Lenoir, philosophe, historien des religions, de nous avoir éclairé une fois de plus sur toutes ces questions qui restent passionnantes, d'ailleurs que l'on croit ou qu'on ne le croit pas. Il est 8h30, merci Frédéric Lenoir et à nouveau bienvenue à Louis Baudin pour notre météo, mais cette fois-ci la météo à 7 jours.
Ah, attention, notamment pour le week-end.
Dieu de la météo.
Voilà, bon, ça, je ne sais pas. En tout cas, on essaie de prévoir effectivement cette évolution de la météorologie au cours de ces prochains jours. Alors aujourd'hui, bon, on est à peu près sûr de nous, sera du soleil toute la journée avec quelques nuages près de la Manche ou encore sur les Pyrénées. Les températures à peu près de saison l'après-midi, 20-25 degrés dans le nord, 24 degrés dans le nord, 24 à 28 dans le sud. Demain, c'est la même chose, avec toujours du temps sec et très ensoleillé. Alors à surveiller quand même peut-être un petit peu plus de nuages au sud de la Garonne demain après-midi avec quelques averses sur les Pyrénées. Ailleurs donc du soleil et de la douceur, pas le matin. Le matin, on est souvent entre 5 et 10 degrés maintenant, mais l'après-midi, on sera entre 20 et 25 degrés dans la moitié nord. 25 à 29 dans le sud. Samedi, toujours une très grande douceur. Je commence par la bonne nouvelle. Oui. Les températures seront toujours aux alentours de 24 à 25 degrés, au moins dans la moitié nord et entre 25 et 30 dans le sud. Mais côté ciel, ça va commencer à se dégrader samedi. Alors surtout en cours d'après-midi. C'est-à-dire que le matin, mi-journée, on aura encore un soleil dominant. Mais au fil des heures, l'après-midi, retour de l'instabilité. Ça commencera par le sud-ouest pour se propager vers les régions de l'est en cours de journée. Et dimanche, eh bien, cette instabilité sera encore dans l'est. Alors que dans l'ouest, on trouvera déjà quelques éclaircies avec des températures en légère baisse. Lundi, une perturbation traversera la moitié nord, nouvelle accalmie mardi. Et puis mercredi prochain, oui. je crois que c'est l'automne qui va arriver déjà. C'est-à-dire, vous savez, des nuages, la pluie, le vent, l'air un peu plus frais, les feuilles qui commencent à tomber.
Première feuille qui tombe.
Voilà, oui. ouais, vous voyez l'ambiance.
Ça permettra de me casser la figure en scooter.
Non, surtout pas.
Ah, non.
Ça sera en milieu de semaine prochaine. Ah, ben non, Yves. Voilà, mais ça c'est milieu de semaine prochaine. Avant ça, encore du soleil et de la douceur.
Ok, maintenant je roule à 30, donc c'est le risque de dérapage est beaucoup moins important. Merci beaucoup Louis Baudin. Avant 9h, Cyril Lignac sera bien avec nous pour une délicieuse recette de crumble simple à réaliser chez vous. Laurent Gérard et Jade ont déjà sorti leur crayon pour prendre des notes. Et dans un instant, nous irons à Bordeaux à la découverte de la librairie Mola qui vient d'être distinguée parmi toutes les librairies de France. Et puis je vous rappelle notre journée spéciale avec Éric Jean-Jean et Jean-Jacques Goldman sur RTL. Tous les auditeurs qui passent à l'antenne aujourd'hui gagneront le nouveau livre d'Éric intitulé Goldman, une vie en chanson. Il sort aujourd'hui aux éditions Hugo Doc.
RTL. Revivre ensemble. RTL autour du monde.
Et RTL Autour du Monde nous emmène ce matin au Canada. Où souvenez-vous, il y a quelques jours, des milliers de livres retirés de bibliothèques en Ontario, dont certains détruits par le feu, Tintin en Amérique, Astérix et les Indiens. Bonjour Alexis Gacon.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant au Canada et vous avez rencontré une des personnes qui a collaboré avec le comité scolaire et qui voulait donner sa vision sur ce projet, le retrait des livres.
Oui, j'ai pu parler avec une dame donc, qui s'appelle Suzy Kiss. Elle se définit comme « knowledge carrier », c'est-à-dire porteuse du savoir autochtone. Et c'est à ce titre-là qu'elle avait été consultée par un comité qui, lui, a décidé du retrait des œuvres et de la destruction aussi. Vous vous rappelez, l'image avait vraiment choqué, ça avait fait le tour du monde. Une petite partie des œuvres avait été brûlée, une trentaine de livres détruits en 2019 dans une cérémonie, je cite, de purification par la flamme. Alors l'idée derrière tout ça pour le Conseil, c'était de détruire des œuvres qui propagent, selon eux, des clichés racistes sur les Premières Nations du Canada. Il y avait notamment Tintin en Amérique, où on voit Milou traiter les Premières Nations de sauvages sauvages. Il y avait aussi des livres d'auteurs autochtones qui, selon le comité, utilisaient des clichés sur eux. Alors, Madame Kiss voulait revenir là-dessus. Elle a été surprise de la réaction forte qui a suivi cette affaire. Et elle explique notamment que brûler quelque chose, que ce soit un livre ou autre, pour les Premières Nations du Canada, cela ne veut pas dire la même chose.
Une des choses qui avait été recommandée, c'était d'éliminer les stéréotypes négatifs qui créent un environnement discriminatoire. Fait que tous les conseils scolaires ont commencé à reviser les livres qu'il y avait en bibliothèque. Puis ça, c'est quelque chose qu'ils font normalement. Puis ils ont fait une petite cérémonie de purification parce que chez les Autochtones en Amérique du Nord, nous, on voit plutôt le feu comme quelque chose qui ramène la forêt en vie. Fait qu'on, c'était une pratique qu'on mettait le feu, on faisait des feux contrôlés pour rafraîchir la brousse. C'était cet esprit-là. Il faut créer une atmosphère d'apprentissage qui est positif pour tout le monde, puis ces stéréotypes-là causent beaucoup de problèmes. Puis ça suit les recommandations des Nations Unies sur les droits des personnes autochtones. Eux aussi disent qu'il faut se débarrasser de toute propagande qui peut créer de la discrimination à cause des stéréotypes.
Voilà, et devant la polémique, le Conseil scolaire de Providence est revenu sur ce projet, a mis un coup d'arrêt à la destruction des œuvres et ils ont dit regretter l'impact de l'initiative.
Et on l'a parfaitement entendu, Alexis. Madame Kiss parle de cérémonie de purification. RTL autour du monde avec Alexis Gacon depuis le Canada.
RTL Matin, la face cachée de la Lune.
Mais voilà, il est 8h37, on vous retrouve Isabelle Choquet. Ce matin, la rencontre de deux mondes, l'intelligence artificielle et le parfum.
Oui, deux mondes qui étaient a priori bien éloignés. D'un côté, l'artisanat, le nez, l'ineffable d'un sillage bien assemblé. Et de l'autre, la technologie, les calculs, l'implacabilité des algorithmes. Ces deux mondes se sont trouvés pourtant. Et plusieurs parfums ont déjà été conçus grâce à la créativité augmentée. Girl de Rochas ou Irrésistible de Givenchy. J'ai lu ça ce matin dans le Figaro. Le dernier en date, c'est Phantom, le nouveau sans bon masculin de Paco Rabanne. Un jus capable, paraît-il, de stimuler la confiance en soi et le pouvoir de séduction. Rien que ça. Ce Phantom est l'un des premiers parfums du programme Science of Wellness, la science du bien-être. Programme qui combine l'intelligence artificielle, les études consommateurs et les neurosciences. Les formules sont analysées par un algorithme dédié, alimenté par nos recherches, explique le responsable, ce qui nous permet d'identifier quel ingrédient ou quelle combinaison d'ingrédients suscite une émotion précise. Dans le cas de Phantom, le logiciel a poussé les parfumeurs à booster l'accord de citron avec une molécule d'une fraîcheur très verte qui active l'impression d'énergie. Bon, je vous entends d'ici, foutue machine. Oui. Même pour des choses aussi subtiles qu'un parfum, elles finissent par remplacer l'homme. Bon, quand même pas. Nous l'utilisons comme un support à la création lorsque nous avons besoin d'accélérer le processus, dit l'une des créatrices de Phantom. Il suffit de renseigner les formules que nous étudions et l'algorithme suggère des combinaisons ou des dosages inédits. Ça nous offre un autre regard, de nouvelles indications, comme le ferait un collègue. L'intelligence artificielle intervient donc comme un agitateur d'idées ou plutôt de senteurs. Elle lève nos a priori sur certains accords ou sur certaines matières premières que nous n'utilisons pas spontanément, confirme un autre parfumeur. Pour ma part, je cale toujours le logiciel sur le niveau d'innovation maximal. Je n'attends pas de lui une simple modification de ma formule, mais plutôt un effet de surprise. Mine de rien, c'est une petite révolution, comme l'apparition des molécules de synthèse il y a un siècle. Grâce à elles, grâce à ces molécules de synthèse, le XXe siècle a été un âge d'or d'invention, explique la directrice de l'école de parfumerie de Givaudan. Mais depuis 92 et Angel de Thierry Mugler, rien de vraiment nouveau n'a émergé. En instaurant une autre manière de créer, ces programmes permettent d'inventer la parfumerie du 21e siècle. Et voilà, les anciens maniaient la mouillette, la jeune génération de nez jongle avec le big data et du coup, plus besoin d'être un chimiste hors pair pour jouer avec les notes. En plus, tout s'accélère, l'algorithme analyse les nouvelles molécules bien plus vite qu'un nez humain. Les jeunes parfumeurs sont donc capables de fournir 5 essais différents dans une matinée, alors qu'il leur aurait fallu une semaine il y a quelques années. De même, l'intelligence artificielle se charge d'analyser la traçabilité des ingrédients ou la stabilité d'une formule avant les tests pouvait prendre des semaines. Trop forte, cette intelligence artificielle. Elle peut même prédire la performance d'une formule dans tel pays ou sur telle catégorie de consommateurs. Et ça, les grands groupes n'attendent que ça. Ils vont pouvoir sortir, par exemple, un parfum qui plairait aux 18-25 ans sur le marché chinois avec un maximum d'ingrédients naturels, hein, au hasard. On est bien loin de la magie olfactive, du charme d'une fragrance bien portée, mais les parfumeurs se veulent rassurants. L'intelligence artificielle n'a pas encore le pouvoir de concocter un filtre d'amour 2.0 qui ferait que les jolies filles ou les beaux garçons se retourneraient sur votre passage. Vous noterez le Pas encore, ça viendra peut-être. Le Big Data à portée de nez, c'est à lire ce matin dans le Figaro.
Un parfum de curiosité, signé Isabelle Choquet. À demain matin, Isabelle.
À demain.
Wow.
Vous êtes comme ça.
Vous êtes comme ça avec Philippe de Maria aujourd'hui. Bonjour Philippe.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous nous emmenez dans la librairie Mola de Bordeaux. Le magazine Livre Hebdo vient de la désigner comme la meilleure librairie indépendante de France et vous avez fait vos emplettes dans cette très belle librairie toute bleue.
Oui, monument, institution, la librairie, elle ne peut pas se rater dans le centre de Bordeaux. Ici, tout est bleu et pas n'importe quel bleu.
C'est un réflexe bleu C, pour être exact, sur le Pantone. La référence exacte de ce bleu, donc les sacs Mola sont bleus, tout est bleu chez Mola.
Emmanuel Robillard nous fait pénétrer dans les coulisses de la librairie.
Le grand couloir où sont acheminées toutes les palettes, sachant que nous recevons 3,5 tonnes de livres par jour en moyenne, et qu'il y a des pics jusqu'à 20 tonnes, comme nous attendons la première semaine du mois d'octobre, par exemple.
Nous entrons maintenant dans les 2500 m² ouverts au public. Lucie est l'une des 55 libraires de la maison, Rayon Littérature, et c'est elle qui commande directement les livres de son rayon aux éditeurs.
Tout le monde est absolument libre et maître de ses achats, de son rayon. Il y a une totale liberté des libraires. C'est une responsabilité, il faut faire les bons choix, mais en même temps, si vous voulez, c'est aussi cette indépendance personnelle par rapport à ses achats et par rapport à la mise en avant, par rapport à la présentation du rayon, qui fait l'intérêt de ce métier, parce qu'en fait, l'endroit où vous travaillez vous ressemble finalement. Chaque rayon, chaque zone a un peu l'esprit comme ça du libraire qui le travaille, et c'est pour ça que les gens reviennent.
Et les libraires font plutôt de bons choix. Seulement 6% de retour des livres chez les éditeurs, un record. 180 000 références en rayonnage et une ambiance particulière. Marie-Christine est une cliente fidèle.
C'est une librairie qu'on souhaite conserver longtemps. Même des fois sans achat, sans but particulier. Il y a, je sais pas, une atmosphère, peut-être un peu chauvin, mais c'est mon ressenti. Non, c'est vrai que c'est très agréable.
Alors pour les auteurs, c'est aussi un passage obligé durant cette rentrée littéraire. Tatiana Dronet est elle aussi une habituée.
Je ne vous cache pas que Mola fait partie de ces librairies qui sont très prescriptrices. Si vous êtes invité ici, si votre livre a été apprécié, eh bien vous savez très bien que voilà, il va y avoir un effet. C'est une affaire de famille. On a l'impression que tous ces libraires ici font partie d'une famille. Il y a quelque chose qui se passe ici quand même.
Désormais, dans cette librairie, les ventes sur Internet représentent 15% du chiffre d'affaires. Denis Mola, le patron, est désormais confiant. Le livre ne va pas disparaître au profit des tablettes.
L'essentiel, c'est que la culture reste avec nous. La culture, c'est cet élément de modération qui évite tout dérapage, toute barbarie ou quoi que ce soit. La France est un pays où on publie beaucoup. C'est un signe et un gage un petit peu de notre liberté à long terme.
Et les 577 romans de la rentrée seront bien tous présents dans les rayonnages ici à Bordeaux.
Merci Philippe de Maria, quel plaisir de déambuler avec vous dans cette librairie bordelaise mythique. Dans un instant, nous allons déambuler dans la galerie des personnages de Laurent Gérard et on va garder un petit peu de place pour le dessert de Cyril Lignac.
RTL Matin, 7h-9h30, avec Yves Calvi.
Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Bonjour Mademoiselle Jade.
Bonjour Monsieur Calvi, bonjour tout le monde.
Vous avez des images qui vous...
Oui, exactement. Oui,
c'est ça. Exactement, voilà.
Voilà,
exactement.
On raconte des bêtises. Revenons à présent sur l'autodafé de bande dessinée qui a eu lieu récemment au Canada. Des albums de Tintin, Astérix et Lucky Luke ont été brûlés dans des écoles car jugés discriminatoires. On en parle avec un amoureux des livres. Bonjour Fabrice Lucchini.
Salut la Jade, je vais pas te faire une leçon d'histoire. Tu sais comme moi que l'autodafé est l'apanage des régimes totalitaires.
Tout à fait,
et
Fabrice.
Oui, très beau livre de Michel Onfray. Et que sous leurs airs humanistes, les adeptes du woke cachent en réalité de vrais petits dictateurs.
C'est pas faux.
Quand je parle de woke, je parle pas de l'ustensile de cuisson dans lequel tu fais sauter des pousses de soja quand t'invites à dîner tes copines du cours de yoga.
Ah oui.
Oui, Fabrice, j'avais compris. Mais bon, en même temps, si ces BD ont été brûlées, c'est parce qu'elles représentaient les Indiens d'Amérique d'une façon dédaigneuse.
Et alors ? Et alors, le mâle blanc de plus de 50 ans aussi est décrit d'une façon dédaigneuse par la culture woke. Et c'est pas pour ça que je veux organiser un autodafé avec les livres d'Alice Coffin et de Rokhaya Diallo. On a abattu des arbres innocents pour les imprimer. Hein ? Ce serait les faire mourir une deuxième fois.
Ah bah c'est marrant, je m'attendais à vous trouver plus véhément. Vous n'avez pas peur que ça arrive en France ?
Non !
tu noteras que ce sont des bandes dessinées qu'ils brûlent parce que les wokistes, s'il n'y a pas d'image, ils ont du mal à lire les livres. Résultat, ils sont complètement incultes. Ils confondent Léon Blois et Léon Blum, Charles Péguy et Péguy la cochonne, Dostoïevski et les bronzés font du ski, Marcel Aimé et Marcel Amont. Je les laisse à leurs bêtises et surtout à leurs névroses. J'en ai déjà bien assez des miennes.
Bon, alors pour conclure, qu'auriez-vous envie de répondre à ce brûleur de livres ?
J'aurais envie de le répondre par une citation d'un grand auteur contemporain qui a trouvé une formule certes un peu brutale, mais parfaite dans ce cas. Oui. Cet auteur, c'est Jean-Marie Billard qui a dit « Allez tous vous faire enculer
!» Ah là, voilà, voilà. Tous les samedis soirs, notre ami Laurent Ruquier crée l'événement avec son émission « On est en direct » où il reçoit aux côtés de Léa Salamé celles et ceux qui font l'actualité. Cette semaine, leur invité exceptionnel est notre spationaute préféré, Thomas Pesquet.
Eh oui, bonsoir à tous, c'est On est en direct, l'émission avec des hauts et des débats. Et toujours à mes côtés, une journaliste qui a de belles dents et qui ne mâche pas ses mots, Léa Salamé. Bonjour Léa.
Bonsoir à tous et bonsoir à vous, Thomas Pesquet. Merci d'être en direct avec nous depuis l'espace où vous tournez.
Eh oui, Thomas Pesquet, nous aussi, on tourne beaucoup comme vous, avec l'argent du contribuable.
Thomas Pesquet, voilà bientôt 6 mois que vous tournez à bord de la Station Spatiale Internationale.
Eh oui, Thomas Pesquet, 6 mois en chaussettes à faire des photos et à lire des dictées de Marguerite Duras. Alors, on a envie de vous demander, qu'est-ce que vous foutez là-haut ?
Ben j'observe notre planète. Vous savez, vu l'espace, notre planète est toute petite. Même les pyramides d'Égypte sont plus petites que ma bite.
On s'en fout. On a posé une station spatiale pour savoir que la Terre est basse.
Sérieusement, à quoi passez-vous vos journées, Thomas Pesquet ?
Bah, je lis des dictées à destination des lycéens de la Terre. Hier, j'ai lu une poésie sur l'espace. En revenant de Mars, la digue. En revenant de Mars, la digue du cul.
Et vous appelez ça de la science ?
Oui, bon, quel genre d'expérience faites-vous, Thomas Pesquet ? Les Français ont le droit de savoir.
Eh bien, je joue du saxo la tête en bas, je sors dans l'espace serré des boulons, je mange de la pizza lyophilisée avec Aldo Fanculo, mon homologue italien, et qui ne faut jamais tourner le dos dans l'espace. Le soir, je bois de la vodka en boule avec mon homologue russe, Yuri Margarine, celui qu'on appelle « Passe-moi le beurre ».
Bon, vous n'oubliez pas votre collègue femme, Thomas Pesquet.
Pas du tout, elle s'appelle Apollo 13, car son père était dans Apollo 13, elle détraque tout. De toute façon, une femme, ça fout la merde hein, dans les groupes.
Eh oui, alors justement, à propos de la vie à bord, dans Orbite, il y a Bit, comment ça se passe là-haut ?
Ce soir, pour nous détendre dans notre couchette verticale, nous regardons des photos de lune, de toutes les tailles, de toutes les formes, et nous contemplons les dunes du monde Vénus.
Oui, mais est-ce cela suffit à votre joie, Thomas Pesquet ?
Ouais, parfois aussi, nous astiquons nos instruments, mais il faut faire très attention, car dans l'espace, tout ce qui est liquide se met en boule et flotte dans la station, et mon homologue japonais... Sushi, sashimi, c'est déjà trompé en se faisant un café crème.
Bien, merci Thomas Pesquet.
Eh oui, merci Thomas Pesquet. Bientôt dans les grosses têtes aux côtés de Steve Moulay et Christine Bravo. Ça va vous changer de la station, vous verrez que ça vole pas très haut.
Jean-Marie Bigard, fort du succès du très délicat Bigard Magazine, développe toujours sa web TV dont nous nous sommes procurés en exclusivité un nouvel extrait.
Salut les amis, c'est Jean-Marie, bienvenue sur Bigard TV, la télé qui a une énorme envie de chier avec aujourd'hui. Une émission sur le spectacle, et comme par hasard, si t'enlèves le mot du mot spectacle, le S, le C, le A, le L et le E, il reste le mot P.
Mais non.
Pour cette émission, je reçois un grand acteur de théâtre, Pierre Arditi, qui revient sur les planches, le gars, avec une pièce qui s'appelle « Fallait pas le dire ». Ah ben, c'est vrai qu'il fallait pas le dire, que les vaccins à Macron, c'est pour t'empoisonner la gueule que t'oublies le 11 septembre. Il a jamais existé, ça, le gars. Non, mais c'est lamentable, c'est pas possible, c'est lamentable. Ah bah ouais mon Pierrot, c'est lamentable le pass sanitaire. Non, je parle pas de pass sanitaire. Je parle de votre émission, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Et pour parler spectacle, j'ai aussi invité Micheline, une artiste qui se produit tous les matins dès 7h au Balto à Vesoul avec son spectacle. Remets-moi ça Robert. T'en penses quoi toi du pass sanitaire ma Micheline?
Moi, je dis que c'est pour faire taire les artistes. Ils savent bien que Macron, c'est un Illuminati représentant en Gotterlinky, ouais. En antenne 5G. Non, mais c'est ça que je dis dans mon bestock.
Non, mais c'est consternant. C'est affligeant. Enfin, c'est quoi, c'est consternant. Ouais, ça va, Arditi, hein, ça va, hein, pète un coup. Hein. Mais quel con. Mais sortez-moi de là, je vous en supplie. Sortez-moi de là. Bon, mais moi, je vais te la sortir pour montrer que si les champignons, ils ont pas de sexe, l'inverse, c'est pas toujours vrai, le gars. Hein. Non, mais je vais vomir, là. Je vais vomir. Bon, la semaine prochaine, sur Bigard TV, on parlera géopolitique avec deux spécialistes. Hubert Védrine, un ancien du Quai d'Orsay, et Totor, un actuel du Café du Commerce à Orsay. En attendant, allez tous vous faire enculer.
C'est lamentable.
C'est fini.
On va reprendre, moi, derrière.
Non.
C'est pas possible.
Bon, alors, on retrouve tout ça sur le site RTL.fr parce que tout cela doit avoir un terme. Et Monsieur Lignac est avec nous dans un instant.
Ah, voilà. En plus.
Oui, il sera même là avec une recette de crumble, ça sera délicieux.
RTL Matin. Yves Calvi.
Bien le bonjour Cyril Lignac.
Bonjour.
Isabelle vit à Paris, elle est dans le 13e arrondissement. Elle vous demande une variante, attention bien, une variante de recette de crumble et alors en plus avec des prunes.
Alors, on va prendre des prunes, on prend 300 grammes à peu près. Donc on retire le noyau.
Ok.
On coupe 150 grammes de pommes. Alors je prends de la Granny Smith. Comme ça, j'ai un côté très acidulé.
Ça met le peps.
Parce que la prune, c'est quand même très riche, c'est sucré, c'est assez flatteur comme fruit.
Donc vous équilibrez avec la Granny Smith la sucrosité de vos prunes. Très bien.
Je beurre le moule.
Oui.
Ensuite, je prends 5 grammes de cheddar que je coupe en petits morceaux avec du sirop d'érable. On va faire un petit sucré salé un peu aigre doux.
C'est sympa ça, oui.
C'est pour ça que je mets du sirop d'érable, 3 cuillères à soupe, 2 cuillères à soupe de sucre cassonade. Mm-hmm. On mélange, on râpe un petit peu de noix de muscade avec du sel. Mm-hmm. On met 2 cuillères de maïzena, on mélange. Et là, on a cette pâte, en fait, que l'on va pouvoir cuire.
Tout ça, ça se fait à la spatule.
Tout ça se fait à la spatule. Okay. Alors là, on ne fait pas avec le fouet. Hein. On mélange à la spatule. Dans un saladier, je mélange 120 g de farine. Mm-hmm. Je mets 65 g de beurre en cube et de la cassonade. Et là, je sable. Pour faire mon petit sablé. J'ajoute des flocons d'avoine.
Ah oui.
Ça, c'est super parce que ça épaissit. Et ça évite aussi de mettre que de la farine.
Les flocons d'avoine de mon enfance.
Exactement.
Dans le paquet. D'accord.
On mélange, on verse les fruits dessus. Mmh. On met au four à 190 degrés pendant 40 minutes. Et on coupe quand ça sort. Donc, on a les prunes, ce petit aigre doux. Et moi, j'aime bien le servir avec de la crème crue. Donc, on prend de la crème crue. Voilà, comme une tatelle en fait.
Oui.
Et on a ces saveurs d'aigre doux avec un petit peu de cheddar. Alors, il faut savoir que le cheddar, c'est pas le cheddar des cheeseburgers. Hein.
Non.
C'est vraiment ce fromage assez gras.
Le magnifique fromage britannique.
Très bon. Et on le mélange avec les prunes, le sirop d'érable. J'ai fait un peu une variation anglaise en fait. Alors,
vous savez quoi, vous
c'est comme ça que c'est bon.
Voilà Isabelle, on espère que vous allez tenter cette recette. Vous qui nous écoutez, vous pouvez nous écrire sur rtl.fr/participer pour nous poser toutes les questions de cuisine que vous souhaitez. Cyril Lignac y répondra. Merci Cyril,
merci.
À demain.
Merci.
Il est 9h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité ce matin avec Dominique Tenza.
Et d'abord, ce qui ressemble à un nouveau règlement de compte à Marseille, un semi-remorque a été retrouvé hier soir en train de brûler à l'intérieur le corps d'un homme. Ça s'est passé dans le 3e arrondissement. La police judiciaire a été saisie. Information signée Alice Moreno. Des peines désormais renforcées pour les auteurs de violences commises à l'encontre des forces de l'ordre. Les députés ont donné hier soir leur feu vert en première lecture. Le projet de loi prévoit jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. La fin du masque à l'école primaire à partir du 4 octobre, mais uniquement dans les départements les moins touchés par l'épidémie, où le taux d'incidence est inférieur à 50 pour 100 000. Une quarantaine de départements pour l'instant concernés, essentiellement en zone rurale où le virus circule le moins. Éric Zemmour annonce porter plainte contre Paris Match, le polémiste d'extrême droite qui fait la une du magazine en compagnie d'une jeune femme que le journal présente comme sa très proche conseillère. Même si les photos des deux en maillot de bain dans l'eau, serrés l'un contre l'autre, ne laissent guère de place au doute. Une semaine après le début de la crise des sous-marins, premier contact hier soir entre Joe Biden et Emmanuel Macron. Conversation cordiale à en croire la Maison-Blanche. Les deux dirigeants ont promis de communiquer davantage à l'avenir. La France réinstalle son ambassadeur à Washington. Les États-Unis promettent de renforcer leur présence au Sahel. Paris conserve la tête du championnat de football après sa victoire à Metz 2-1. 7 victoires en 7 matchs. Le PSG culmine à 21 points. Marseille et Angers, qui ont fait hier soir match nul 0-0, occupent respectivement la 2e et la 3e place. La fin du match, marquée d'ailleurs par de nouveaux débordements. Une centaine de supporters marseillais ont traversé la pelouse pour aller en découdre avec la tribune angevine. La Ligue de foot doit examiner ces incidents dans les prochains jours.
Merci beaucoup Dominique, à demain matin.
À demain.